Wow, Charlie, il est quelle heure là?
Oh putain, mais il est 20h.
Et on est quel jour?
Mercredi.
Et qu'est-ce qu'il y a le mercredi à 20h?
Sur RCN, la boîte de chocolat.
Allez.
Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Et ce soir, notre chocolat, c'est Jurassic World et on en parle maintenant.
Dans 15 secondes, tout ce qui existe sera complètement atomisé.
Si c'est une rançon que vous espérez, je vous dis tout de suite que je n'ai pas d'argent.
Nom d'une pute, t'es qui, toi?
Je suis une mythe en pull au vert.
C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue.
Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça.
Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con.
Oh, my generation.
On est mal barré.
Soyons enculés.
Tu es immonde.
Cause this bad boy for life, for life.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le podcast qu'est la boîte de chocolat. Alors ce soir on va parler de Jurassic World, c'est un film science-fiction action-aventure de 2h15 réalisé par Colin Trevorrow en 2015. C'est avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, B.D. Wong, Vincent D'Onofrio et Omar Sy. C'est un film qui a reçu une note presse de 2,9 et une note spectateur de 3,5. Et quand on déballe le chocolat, ça nous donne ça.
Il n'est pas question de contrôle.
Ah
restez
ouais.
Là. C'est une relation. Basée sur le respect. Ces animaux se disent, je dois manger. Je dois chasser. Je dois...
Ken.
Il y a bien de ces besoins que vous ressentez aussi.
Qu'est-ce que c'est donc ?
Chaque fois que nous dévoilons une nouvelle attraction, la fréquentation augmente.
Surtout que c'est la merde.
C'est énorme !
La direction a estimé que des mélanges génétiques boosteraient l'effet waouh.
Ce sont des dinos, wow. Effet waouh déjà garanti.
On l'a conçue plus imposante que le T-Rex.
Qu'est devenue sa sœur ?
Elle l'a dévorée.
Bon bah voilà. Hein ? Alors, ma compagne ce soir, Charlie. Bonsoir Charlie.
Eh bien, bonsoir Thomas. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Valentin.
Et bonsoir à tout le monde. Hommage à Thomas.
Et bonsoir Sophie.
Bonsoir.
Alors écoutez, on va être 100% honnête. Et bonsoir à moi-même, bien évidemment. On va être 100% honnête avec vous. Là, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre.
Oui.
Parce que figurez-vous qu'on l'a enregistré une première fois et qu'il y a eu un souci au niveau du son.
Oui, ça a merdé.
Oui.
Donc le son est dégueulasse.
Ouais.
Et malheureusement, on peut décemment pas le diffuser comme ça.
Oui.
On est obligé de le.
On le mettrait éventuellement en bonus si vous voulez, parce que le son est pourri, mais les vannes sont bonnes. Mais malheureusement, on s'en est rendu compte à la fin du podcast.
Ouais, voilà.
Alors entre temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une raclette et un gros apéro. Donc ça perdra en spontanéité, certes, mais ça gagnera en grammes d'alcool.
Voilà.
En tout cas, toujours est-il, c'est que là, c'est l'heure de l'instant promo, et l'instant promo, ça nous donne ça.
Dans tous les podcasts cinéma, chaque podcast avait une boîte mail. Cette boîte mail était choisie en fonction du nombre de fois qu'elle contenait le mot mail, parfois au-delà des facultés humaines connues. La boîte de chocolat mail à gmail.com a un rapport avec ce dont je suis en train de parler. On a découvert des centaines de cas de podcasts possédant aussi un Instagram. Mais aucun n'a jamais montré comme lui un double Instagram. La _ boîte de chocolat et la boîte, le chiffre 2, chocolat. Il est le seul. Il est unique.
Alors, qui me fait le résumé de ce brillant film?
Je me lance alors.
Bah oui.
Ok, Jurassic World, partie de la franchise Jurassic Park. Et donc, c'est, bah voilà, le... Qu'est-ce qui se passe quand on rate un premier parc? Que ça merde, qu'on en fait trois films et qu'on essaie de le faire une deuxième fois et que, bah du coup, on fait les mêmes conneries. Et qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, ça merde aussi.
Et voilà, comme dans Star Wars, quand tu fais la même chose, et ben les rebelles ils font la même chose aussi.
Allez, c'est parti. Le film s'ouvre sur un mystérieux œuf qui est en train d'éclore, puis un deuxième. Et au vu des petites pattes qui sortent, tu comprends rapidement que ce qui va sortir, clairement, ce sera pas un poussin.
Non, clairement.
Il y a une musique super angoissante en plus.
Quand elle sort sa petite patte, là, ce petit côté un peu nerveux, tu vois,
ouais.
de l'animal qui
vient.
Tu sens
d'être. L'agressivité du
ouais.
dans le.
Voilà.
Tu te dis, tiens, lui il est TDAH, quoi, tu vois, il va être, voilà, ça va remuer un petit peu.
Le petit côté poulet en cuir avec des ongles d'esthéticienne, là, je trouve que ça fait agressif tout de suite.
Ah, c'est clair. Bref, ça coupe, et plan suivant, juste après, on voit un oiseau ultra mal fait qui est en train de poser ses petites pattes sur de la neige, et on découvre une famille qui s'apprête à partir prendre l'avion.
Ah bah, on découvre une famille typique américaine, les parents qui, là, sont en train de préparer les bagages pour emmener leurs enfants au parc. pour le coup. Et il y a l'ado. L'ado qui dit au revoir à sa meuf.
T'as le petit frère aussi, où on le voit physiquement. Et franchement, il a une vraie, vraie gueule de Beatles. Hein,
ah, et le petit frère, wow. Voilà. Le futur Ross Geller, clairement, qui est fan des dinosaures.
Petit que je trouve très rapidement énervant. Lui, c'est ouais. Le genre de gamin qui arrête les droites ouais. avec sa tête. À bah,
le petit, je sais tout. Ouais. Tu vois, très geek.
Savez-vous comment il fait l'ADN ?
Beaucoup trop, mais alors beaucoup trop de questions cons.
Oui,
c'est, ouais, c'est un peu... Le petit garçon un peu trop
curieux. Bah, ils ont mis des enfants parce qu'il faut mettre des enfants dedans, mais bon, clairement, ils n'auront pas une grande importance dans le film en termes de développement.
Ouais. C'est juste des ressorts scénaristiques.
Mais donc, la petite famille, bien sous tout rapport, nous fait comprendre qu'ils vont les envoyer dans un parc d'attractions. Ils vont être tout seuls avec leur tante. C'est ça,
oui.
La tante, donc la sœur de la mère.
De la mère.
Bah là, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils les amènent dans un aéroport, pour le coup, et qu'ils prennent l'avion. Alors, c'est marrant parce que, pour le coup, le couple semble assez uni, et au moment où les gamins s'en vont...
Tu comprends que...
Tu comprends qu'il y a... Ouais, y a ambiguïté dans le couple parce que la mère change de gueule.
Ouais. Vraiment. Clairement, ouais.
Genre, là, c'est bon.
Vraiment, elle change de gueule.
Ouais, non, mais c'est ça, c'est ouf. Les gamins peuvent plus nous entendre, ouais. Ouais, bah d'accord. Bah franchement, je t'aime pas, Jean-Thierry.
Ah bah, t'as le père, en fait, qui balance à la femme, dernier petit déj, c'est réussi.
Dernier petit déj familial, voilà. Ouais,
c'est réussi. Réussi. Elle lui répond.
Tu m'as jamais fait jouir.
Voilà. Et là, on comprend que ça se passe pas bien entre les parents et qu'ils envoient les enfants loin pour pouvoir divorcer tranquillement.
Ouais. Ou alors peut-être qu'ils savent très bien que le parc va dégénérer et que ça se trouve, ils vont te faire bouffer.
Oui. Ils envoient les enfants à l'abattoir, quoi. Tu vois.
Se débarrasser des
et si on envoyait nos enfants dans un parc avec des dinosaures.
Ça serait carrément bien que ce soit eux qui tirent les ficelles. Les vrais propriétaires du parc, c'est eux.
Ils vont prendre l'avion pour se faire réceptionner par leur tante Claire, au Costa Rica pour visiter une fameuse île, c'est quoi cette île?
Eh ben, c'est Isla Nublar, donc île du premier Jurassic Park.
Et non pas Isla Nibar, qui n'a strictement rien à voir.
Excellent, excellent Thomas, merci.
Nibar, avec deux grosses tosses là qui se
On mettra l'autre émission.
Vous voyez, cette vanne n'était pas dans la première version, c'est peut-être pas plus mal.
Et donc non, ils se pointent donc sur l'île du premier Jurassic Park, sur laquelle ils ont reconstruit un autre parc.
Oui.
Donc vraiment sur les ruines du premier.
Comme quoi, on n'apprend pas tout le temps de ses erreurs.
Ah bah oui, surtout
autant
quand tu
foutes la merde une deuxième fois au même endroit.
Oui, bah, oui, ça.
Je veux dire, quand tu fais caca dans le salon une première fois, c'est quand même con de faire exactement la même chose à côté une deuxième fois.
Bah oui,
alors que t'as laissé la merde fossilisée du premier pour te rappeler qu'il fallait pas le faire.
Allez,
oh tu l'as fait quand même.
Et donc cette île qui accueille le parc Jurassic World.
Ouais.
Et donc ils se pointent comme ça. Et ils sont censés être accueillis par leur tante, mais c'est l'assistante de la tante.
C'est ça.
Une assistante. Oh putain.
L'assistante.
Allez. Bien sûr. Qui vient parce que la tante, elle est overbookée en fait. Elle a pas le temps de.
Elle est busy.
Bah, elle est directrice du parc au final.
Scène suivante, on retrouve la fameuse Claire justement qui présente Jurassic World aux investisseurs. Elle vante les mérites du clonage. D'ailleurs, c'est un peu le mot d'ordre de la maison, c'est full clonage.
Ouais, mais c'est clair que.
C'est ça clone, ça clone, ça clone.
Un peu tout partout quoi.
Ouais.
Bah, ils ont bien évolué depuis le premier Jurassic Park où là, c'était de l'extraction d'ADN de moustiques. Enfin, je sais plus c'était quoi.
C'était encore assez expérimental.
Voilà. Et là, maintenant, ils sont bien rodés. Et donc, elle leur dit, écoutez, aujourd'hui, les dinosaures, ça impressionne plus personne.
Alors,
les gamins, ils sont sur TikTok, ils sont sur voilà, leur truc là, et puis ils voient un dinosaure, ils font ouais, bof, j'ai déjà vu. Et
problème
puis,
de génération, parce que moi, clair. Un dinosaure devant moi, ça m'impressionnerait quand même. Hein.
Bah, tu m'étonnes.
Les investisseurs, eux, par contre, ils se disent, bah, clairement, nous, on veut mettre le pactole, mais par contre, on veut du sensationnel, on veut du frisson, on veut que ça banqueroute, quoi, tu vois, on veut
du gros sensationnel et on veut une race, justement, supérieure aux dinosaures, quoi.
Ils vont pas être déçus, parce que Claire, elle est en train de dire, ah, vous en faites pas, mes petits potes, on a créé un dinosaure de toutes pièces qui, visiblement, ferait plus ou moins 15 mètres de long. 15 mètres de long, c'est beaucoup, hein. Je veux dire, dans ton garage, faut de l'aménagement, hein, pour le placer.
J'ai du mal à me rendre compte de ce que ça peut représenter un animal de 15 mètres quand même.
15 mètres, c'est quand même 3 girafes l'une au-dessus de l'autre.
Bah, il faut le convaincre. D'ailleurs, tu retrouves un personnage à ce moment-là de la première saga jurassique.
Le docteur Harry.
Le docteur Wu. Harry Wu.
Harry Wu, ouais.
Harry Wu. Et donc, qui était le généticien en chef.
Et non pas Haribo, ouais, tout à fait.
On y pensait tous. Ouais, les petits dinosaures que tu manges. Ouais,
c'était marrant qu'il appelle docteur Wu. Comment vous appelez Harry Wu? Ah, ok, super.
En vrai, ça aurait été vraiment
pire, Docteur Boo, comment Adi Boo. Allez, hop là. Hey, je t'emmerde.
Merci.
Super.
Tu comprends que, en gros, les leçons du premier parc ne sont pas vraiment acquises.
Ils apprennent pas de leurs erreurs, déjà, d'une part, et puis de deux, ils veulent faire encore une plus grosse erreur.
Parce que là, qu'on soit d'accord, on parle pas d'une recette de cuisine où t'avais mis un peu trop de sel.
Non.
Là, on parle de dinosaures qui, fondamentalement, ont buté des gens. Donc, il serait peut-être temps de, voilà,
de lever le pied sur les transformations.
Après, cette scène, en soi, elle a une importance dans le sens où c'est la première fois qu'on rencontre Claire. Oui. Et là, elle pose le cadre du personnage. Très froide, tout en blanc, le carré plongeant qui est parfait, sans un cheveu qui dépasse, et qui est enlevé de tout sentiment.
Ouais.
Et qui va beaucoup... très bien évolué. D'ailleurs.
Alors Claire, c'est quoi solution. C'est vraiment un gros orteil avec une perruque rousse. Ah, non mais c'est ça. C'est vraiment.
C'est ta 30 tige où t'as retiré la sève dégueulasse de ton oreille.
Je trouve du charme, moi quand
mais
même.
Mais quel
sérieux. Ouais, elle a un truc dans le regard qui est.
Moi je l'aime bien. Hein.
Ouais, non, elle impose un peu quand même.
Bref, on pose le cadre de Claire.
Et là, on retourne avec les deux garçons qui visitent le parc et bordel, qu'est-ce qu'il est chiant.
Ah, il est relou. Oh là là.
C'est un gamin.
Oh, non, c'est un gamin de son âge.
Mais c'est comment à cet âge-là, franchement ?
Pas aussi agaçant.
Ouais.
Ah.
Pour sa défense, ouais. Si t'as un gamin qui est passionné par les dinosaures, ouais, on a tous été passionnés par les dinosaures à une époque. Pas si tu te retrouves dans un parc avec des dinosaures, ouais. Je serais surexcité aussi.
Oui, t'es surexcité.
Non, mais pas étalétation de l'air d'eux, là.
J'avais pas cette coupe de cheveux de merde. Excuse-moi,
on avait tous la coupe au bol déjà à l'époque.
Attends, c'est pas parce que tes parents t'ont fait un mulet qu'on était tous pareils.
Non, mais on avait tous la coupe au bol à cette époque.
Non, s'il te plaît, il a la coupe de Balavoine.
Non mais t'as déjà vu Balavoine.
Bah ouais, carrément, il a la coupe de Balavoine. Ah si, je suis désolé.
Est-ce que t'as plus vieux comme référence encore?
Ouais, bien sûr.
Genre un mec qui est mort avant le 20e.
Il a la coupe de Pierre Tchernia dans les années 20. Bref, Claire vient les rejoindre et on apprend que ça fait 7 ans qu'ils ne se sont pas vus.
Oui.
Ouais.
Et pourtant, ils la reconnaissent.
Oui.
Oui, mais les retrouvailles sont froides quand même.
Oui, oui, parce qu'en fait, t'as l'ado qui dit « Ah, super, bah, en fait, je vais pas passer mes vacances avec toi, bah génial. » Et là, t'as le petit qui pète un plomb. Putain, t'as envie de dire « Hey, gamin, mais... » Gars, déjà, tu l'as à peine
parc,
connu.
Ouais, déjà, t'es dans un parc avec
t'es
des
dans
dinosaures,
un parc,
fais pas chier, quoi.
T'as des dinosaures, t'as des hologrammes, t'as des dinosaures, putain, t'as tout ce qu'on rêverait d'avoir, quoi, tu vois.
Ouais, mais family, tu vois, ouais, c'est plus important.
Franchement, gamin bourgeois, le mec, il se rend pas compte, hein. Tu lui offres un pass VIP pour Disneyland. Oh, mais je voulais des popcorn. Oh là là, casse-toi.
D'autant plus que la mère les envoyait dans les pattes de sa sœur. Mais on sait même pas si elle lui demandait son avis. Ça se trouve, elle a un parc à gérer.
Elle a un parc à gérer.
Ouais.
Elle a avec des dinosaures.
Autre chose à faire que de s'occuper de comment de ces gamins-là.
De mioche, quoi.
Un
chieur en plus.
Peut-être que c'était une journée où elle avait autre chose à faire.
Moi, je comprends. Hein. Franchement, j'ai deux gamins comme ça. Je les laisse à l'assistante.
Ouais, c'est clair. Néanmoins, Claire, donc la tante, elle est quand même sympa. Elle dit bon, écoutez, demain, je serai avec vous. Et vous savez quoi? Même ce soir, 20h, je serai avec vous. Mais là, pour l'instant, vous serez avec l'assistante.
20h voilà. Pile.
Ouais. En tout cas, toujours est-il que sinon, elle va nous apprendre autre chose, c'est que visiblement, dans le QG, on se rend compte qu'il y a un problème avec des clôtures.
Oui, première annonce des failles de sécurité.
Alors, c'est ça qui est dingue, c'est que j'ai l'impression que les gens les prennent relativement bien. On parle de dinosaures, on parle de clôtures qui sont un petit peu défectueuses, et les gens disent « oui, ouais, c'est bon, ça va, c'est bon ». Oui,
ça n'a pas l'air très grave en fait. Ça a l'air d'être récurrent même, encore plus inquiétant justement.
Ah mec, c'est ouf.
Parce que oui, c'est l'habitude, c'est comme ça. Bon. Tout le monde s'en branle en fait.
C'est des raptors.
Après, ça fait partie des problèmes que tu as à gérer dans un parc. Comment, il y a des enfants qui sont perdus, il y a des attractions qui essayent de bouffer les gens. Enfin, ça paraît tout. Tu vois,
t'imagines à Disney, j'ai le bateau pirate qui est en train d'essayer de bouffer les gens.
Tranquille.
Ouais, c'est arrivé la semaine dernière, pas de problème.
Non, mais c'est assez commun.
Dans le normal. Direction l'hélicoptère pour Claire, car oui, elle a rendez-vous avec le big boss du parc, à savoir Masrani.
Exactement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le big boss du parc, il atterrit vachement bien, mais il redécolle pas trop bien, tu vois.
Oui, parce qu'il passe.
Ce qui n'est pas logique.
Effectivement. Il
passe son diplôme de pilote.
Ouais, parce qu'il a trop de sous.
Voilà. Oui, bien sûr.
Tu vois, toi, le permis à 1 euro, bon, bah lui, il est au-dessus. Hein.
À force d'avoir trop de sous, tu sais, tu t'inventes des vies, quoi.
Là, il s'invente pilote d'hélicoptère.
Ouais.
Ce qui va pas lui l'aider non plus dans la suite du film.
Il va pas du tout l'aider.
Mais voilà, on a ce
il était encore apprenti.
On a ce personnage un peu du milliardaire, mais tu vois, le milliardaire cool. Quoi.
Ouais. Ouais.
Le milliardaire, non, mais me parlez pas des chiffres. Les chiffres, ça m'intéresse pas.
Oui, le milliardaire humain qui dit « Jurassic existe pour nous rappeler que nous sommes tout petits ».
Ouais, alors,
elle
humain,
est tellement belle cette phrase.
Parce qu'à un moment dans le film, ils disent qu'il a fait fortune dans le pétrole. Hein, donc le côté humain.
Oui, mais ça l'a changé.
Il reste dans l'énergie fossile. Et ça, c'était pas dans la première fois qu'on enregistrait. Hein. Ça, c'est de l'impro. Hein. Non, mais le côté milliardaire gentil, j'y crois pas un seul instant.
Moi non plus.
Alors pourquoi Claire, elle se rend dans l'hélicoptère avec le gars? Bah, tout simplement parce qu'ils ont créé un putain de dinosaure de toutes pièces, à savoir un dinosaure qui n'a jamais existé. Et le but pour le big boss du parc, c'est de dire, bah tiens, monte voir dans quoi j'investis un billet. Et donc là, ils arrivent à un enclos qui est à l'autre bout de l'île, parce que la bestiole est tellement fat que c'est un enclos bien spécial.
Oui, et puis enclos dont ils disent quand ils arrivent à côté, tiens, ils ont augmenté la taille des murs.
Oui.
Oui, parce qu'elle est plus grosse que prévu.
Là, tu te fais, ouais, peut-être que les scientologues.
Les scientologues,
ils sont un peu gourés, quoi.
Scientologues, c'est
vrai. Ouais, scientologues,
ouais,
c'est
ouais,
Tom Cruise.
Ouais, j'avoue. Ouais.
Après, peut-être que je suis un petit peu peureux, tu vois, mais je me dis, moi, déjà, à la base, un dinosaure, je trouve ça assez flippant. Et le fait qu'on dise, non, mais en fait, il me le fallait plus puissant, plus méchant, plus énervé, tu
bah,
dis.
Disons que c'est comme comme s'il y a un mec qui vient de dire, tiens, on a cloné un chat. Bon, par contre, il fait 4 mètres. Tu dis, ouais. Peut-être danger.
C'est peut-être plus un chat, on peut parler de panthère, non? Ouais, non, mais peut-être, tu comprends.
Peut-être là, ça devient dangereux.
C'est un putain de lion, ok.
Et là, en fait, quand ils arrivent, déjà, le Big Boss, il est en train de se dire, parce qu'on est dans un espèce de local où t'as quand même des vitres blindées qui donnent vue sur une espèce de mini-forêt, là où est censé être le nouveau dinosaure. Mm. Et là, t'as quand même le Big Boss qui se dit, les clôtures... sont pas un peu grandes? Si, parce qu'en fait c'est plus grand que prévu, d'accord. Mais là, l'espèce de triple blindage, je vois qu'il y a des...
Il y a des marques de griffures.
Il est abîmé. Ouais, parce qu'en fait, il est un peu plus énervé. Et le mec, au lieu d'avoir tous les warnings en disant bah, danger, le gars dit elle a du cran. J'aime ça.
Ah, mais il y a d'autres trucs. Hein, y a du, et comment vous la nourrissez? Bah, comme ça, parce qu'avant, elle anticipait, là, on allait la manger. Et puis, du coup, elle a commencé à essayer de bouffer les gardes. Ah oui, d'accord. Donc,
non, mais, déjà, mais... t'as les premières alertes qui commencent à arriver. Ouais. C'est, elle est plus intelligente que prévu, elle est plus grande, elle est plus grosse, elle est
plus énervée.
Tu sens la merde arriver. Quoi.
J'ai l'impression que le gars, il est dans un avion, les deux ailes viennent de s'arracher, que le mec dit j'aime le défi, n'importe quoi.
Je vais atterrir dans l'eau, ok.
Et du coup, le gars est quand même curieux, et puis il commence à regarder dans cette forêt à travers les vitres blindées, et puis il commence à dire, attends voir, donc là, elle est censée nous voir, là, et ça nous donne ça.
Elle peut nous voir.
Elle serait sensible aux radiations thermiques, comme les serpents.
Bah voyons.
Je croyais qu'il y avait deux spécimens.
Comme un prédateur.
Il y avait une jumelle dans l'éventualité d'une mort en bas âge.
Et la jumelle?
Elle l'a dévorée.
Ah bah nickel. Allez.
Et il demande même pas de quoi elle est faite dans le deuxième, tu vois.
T'as tous les indices pour dire que c'est la merde.
Son enclos est bien sécurisé au moins.
Je sens la fébrilité dans la voix.
C'est les meilleurs ingénieurs structure au monde.
Oui, comme Hammond.
Hammond.
Il y a dans le parc un ancien de la Navy, membre d'un programme de recherche que je finance.
Ancien de la Navy.
Owen Grady.
Je vois de qui il s'agit.
Bien sûr, parce que j'ai peut-être une aventure avec.
Je les vois quelques fois sur Twitter.
Et donc là, la réflexion et l'accord du gars, c'est l'enclos a été conçu par les meilleurs ingénieurs du monde,
ouais.
Mais demandez quand même au mec qui a réparé la cabane de jardin de son beau-frère. Parce que,
qui est en train de réparer une moto, là, avec sa canette de coca.
Parce qu'une fois, il a mis le pied sur un bateau, tu vois. Ça n'a aucun sens. Quoi.
Du coup, on apprend, oui, qu'il y a le chef qui demande à Claire d'aller solliciter Owen, qui est un ancien de la Navy.
Pour vérifier les structures.
Voilà, la sécurité. Super. Et là, on comprend directement que ben, Claire et Owen, effectivement, ont eu une aventure ou quelque chose, puisqu'elle a l'air vraiment dégoûtée de devoir le contacter.
Ouais.
Alors, ça tombe bien qu'il parle d'Owen, parce qu'en effet, la scène suivante, Vlatipa qu'on va découvrir un Chris Pratt. Le mec porte le film sur ses épaules. Alors, Chris Pratt, c'est quoi sa particularité?
Il est dresseur de raptors.
Il est un ancien de la Navy.
En plus d'être ancien de la Navy. Et puis, visiblement, il s'occupe au-dessus des structures. Voilà.
Alors, pour info, hein, ceux qui ne sont pas encore ultra au clair avec les dinosaures, si vous voulez, il y a le Big Boss qui est le T-Rex. Hein,
oui.
Et juste en dessous, clairement, on a des raptors, c'est des petits T-Rex quoi, qui sont beaucoup plus rapides.
Ah,
et,
pas les mêmes compétences.
Ils chassent en meute. Ils sont super intelligents.
Ils sont plus dans la vitesse.
Oui, alors que le T-Rex, c'est plutôt un peu solitaire, je pense.
Moi, pour vicieux, le coup, les raptors.
Moi, pour le coup, si je devais me dire, écoute, il y a un T-Rex après toi ou des raptors après toi, je prends le T-Rex.
Ouais, parce que je pense qu'il va moins vite.
Mais surtout, tu l'entends au loin.
Et tu l'entends au loin.
Même je suis d'accord avec Thomas, moi, je prends aussi le T-Rex.
Ouais
mais l'avantage du raptor, c'est que tu fermes une porte, normalement, t'es tranquille.
Non, dans Jurassic Park 1, et tu montres qu'il l'ouvre.
Tu fermes une porte à clé, normalement, t'es tranquille.
Par contre, T-Rex, il défonce la porte. Il l'ouvre.
Non, elle est pas fermée à clé, non, ça va.
Par contre, t'es dans le observe, t'es dans la merde. Surtout toi.
C'est clair, avec tes 2m6.
Moi j'avoue, je choisis le T-Rex aussi quand même.
Donc là, en effet, on voit Chris Pratt pour la première fois. La petite particularité qu'il a, c'est quoi? C'est qu'il dresse en effet des raptors.
Oui, ouais. Avec un petit il a une sorte de petit engin qui fait des clics comme ça.
Comme un stylo.
Oui, on va l'appeler le stylo. Ouais. Et donc, il y a les mecs relous au bureau qui font ça.
Exactement. Mais ça permet de capter le regard des raptors qui se concentrent sur ce bruit.
Elles sont en train de poursuivre un cochon.
Un petit cochon, babe.
Parlons-en de ce cochon.
Oui, parlons-en de ce cochon parce que honnêtement, c'est censé aller à 60 km/h et le cochon.
Le raptor, tu parles.
Je pense. Ouais, le raptor, oui, est censé aller à 60 km/h et ils n'arrivent pas à rattraper un cochon, quoi.
Par contre, je trouve ça quand même vachement dangereux de leur donner à chasser le truc qui ressemble plus à l'être humain au niveau du cou.
Ouais, j'avoue.
Préparez-vous au bout, les amis.
Tu vois, quelque part, elles vont, quand elles croquent de nulle, elles se disent oh, mais je connais ça.
Ça a l'air sympa.
Mais donc, non, il a un petit stylo.
Le cochon a eu de l'avance. C'est pour ça que...
ouais. Et il arrive à les, en fait, à les dresser. Donc, si t'arrives, il les fait les arrêter.
Ouais.
Elles vont à gauche, elles vont à droite. Elles lèvent la tête. Voilà.
Ouais, c'est quand même un bon début, quoi.
Ouais, c'est quand même bon début avec des raptors.
Ça reste quand même méga plausible parce qu'il est quand même en hauteur, déjà. Et il y a une scène en plus qui est incroyable parce qu'il a contre-jour, c'est super stylé. Et ça reste quand même hyper plausible. Il n'est pas à 2 mètres d'aile.
C'est pas le fait qu'il arrive à dresser des raptors que je trouve pas plausible.
Il les capte avec un bruit.
C'est qu'il a réussi à leur apprendre que ça, en fait.
Il a réussi à leur apprendre que ça. C'est des raptors. Tu veux leur apprendre quoi? À faire le
mort? C'est pas visiblement, tu peux. Les raptors, c'est super intelligent. Ça capte des odeurs à 2 km.
Et c'est toi qui dis que c'est des animaux sauvages, on peut rien leur apprendre. Tu dis que c'est pas assez.
C'est pas un bon dresseur.
D'ailleurs, quand tu vois, Chris Pratt pour la première fois, il est en contre-plongée de ouf derrière le soleil et tout.
C'est stylé.
T'as l'impression, tu vois le mec et genre, qu'est-ce qui sort dans sa main, tu vois. C'est un espèce de bille pour les raptors, quoi.
Et on va découvrir un deuxième personnage parce que, oui, à cette époque, les Américains venaient de découvrir le film Intouchable et ils se sont dit alors, Omar Sy, il me le faut dans mon film. Non, mais l'écriture du dialogue, on s'en bat les couilles. Il me faut juste le gars-là dans mon film. Et là, t'as Omar Sy qui vient prendre son chèque, tranquille, pour faire son américain.
Ouais, il a pas
c'est plutôt cool, franchement, il est bien.
Il aurait mérité un truc plus sympa.
Ouais, il a pas un gros poids dans le film, clairement.
Les dialogues sont
je pense que si tu supprimes ce personnage du film,
ça change.
Ça change.
Oui, mais t'es content de le voir.
Si tu supprimes les gamins aussi, ça change rien du tout.
Si, bah si, il y a un ressort scénaristique.
Il leur court pas après.
Bah oui.
Mais Omar Sy, t'es content de le voir, en fait. Ok, si tu le supprimes, ça sert à rien. Enfin, ça change rien, mais t'es content de le voir.
Il méritait un meilleur
rôle. C'est juste un petit truc en plus.
En fait, à défaut d'avoir un meilleur rôle, il méritait juste une meilleure écriture parce que, oui, en effet, c'est juste. T'as l'impression que le scénario a déjà été écrit et qu'ils se sont dit, tiens, rajoute-moi-le, lui, là, vite fait, à la sauce, et puis voilà.
Techniquement, le gros lard qui va se faire bouffer plus tard dans le film en faisant sortir l'Irex de son truc, il a plus d'importance.
Oui, ça n'empêche qu'après, il revient dans les prochains films, Omar Sy.
Non, dans le 2, il est pas.
Mais dans le 3, il y est.
Il revient prendre un cachet.
Non, mais du coup, je veux dire, c'est un personnage qui est, oui, secondaire, mais t'es content de le voir. Tu t'en fous s'il est pas là, mais il est là, t'es content.
Ah, moi, ça m'a fait chier pour lui.
Ouais,
moi
aussi. Tu penses pas qu'il sert à rien. Tu vois,
moi, perso, quand je l'ai vu à l'écran, j'ai fait c'est un Frenchie, lui, putain, je le connais.
Le plus art.
Oh, trop bien.
T'es fier.
Et on va découvrir aussi un troisième personnage. Alors, lui, par contre, est beaucoup plus casse-couille comme personnage. Il s'appelle Oskin. Et Oskin, c'est qui, c'est quoi?
C'est Baleine dans
Full Metal Jacket.
Vincent Donofrio.
Ah
ouais. Alors, lui, par contre, il est assez intrigué par le talent qu'a Owen, donc Chris Pratt, pour dresser les raptors. Et il se dit, putain, moi, mon petit pote, j'ai un projet, c'est de faire des raptors les nouveaux soldats de demain pour les guerres.
Voilà. Ouais. Parce que,
envahir l'Irak avec des raptors.
Parce qu'en gros, pour lui, les raptors sont pas piratables comme les drones, et ils peuvent se faufiler un peu partout. Donc,
ce qui est marrant, parce que les défenseurs de drones auraient d'autres arguments en disant, alors oui, ils sont peut-être pas piratables, mais il y a peut-être d'autres choses à prendre en compte.
Les drones ont d'une âme et tout.
Après, techniquement, si tu pirates un drone, est-ce que tu peux pas le retourner contre son...
Si tu arrives à le pirater,
son propriétaire.
J'ai le choix entre piloter un drone ou gérer un raptor. Je prendrai le choix de piloter un drone. Parce que le raptor, sur un malentendu, moyennant un gros steak devant lui, il peut se dire bah,
oui,
en fait,
il peut changer de camp assez vite.
Voilà, c'est ça.
On sait jamais.
Sur une île déserte, le drone il bouffe pas, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Alors qu'arrivant très vite, je sens que si le raptor,
il
lui et moi.
Il te défend aussi. Chris Pratt nous l'a prouvé, il te défend.
Oui, attends, il te défend les deux premiers jours. Hein, quand il commence à avoir la dalle.
Jusqu'au moment où il n'y a plus comme sable à manger.
Je veux dire, le drone, au pire, il a plus de batterie. Le raptor. Le problème, c'est quand il va commencer à avoir faim et qu'il va te voir comme un sandwich vivant.
Quand tu lui présentes sa huitième noix de coco, qu'il se dit, attends, le bras ou la noix de coco?
Ah, parce que moi, j'ai goûté du cochon, ça me paraissait sympa et il ressemble vachement. Donc, moi, clairement, je prends le drone. Donc oui, en fait, son projet, c'est de faire en sorte que des dinosaures deviennent des soldats, en fait.
Il veut militariser les raptors et en faire des armes de destruction précise, en l'occurrence.
Alors, pendant que le gars fait son petit speech, il s'appelle donc Oskin, pendant qu'il fait son petit speech, il faut savoir qu'il y a un noob qui vient de... qui est sur la petite base dans l'enclos des raptors, qui, lui, a une mission, c'est de choper le fameux cochon.
Le fameux cochon
qui est toujours en train de circuler dans l'enclos et que les raptors n'ont toujours pas rattrapé.
Exactement.
Hein.
Et il préfère d'ailleurs le stylo de Owen au petit cochon. Enfin,
il appuie sur son stylo, là.
On va l'appeler Babe.
Ouais, Babe.
Normal, hein, pour un cochon.
Et donc, arrivant, le mec, on le missionne, on lui dit, écoute, vas-y, chope voir le cochon. Donc, le mec, il est sur une espèce de passerelle, il est à 5-6 mètres de hauteur, et le seul truc qu'il a à faire, c'est de récupérer le cochon via un collier étrangleur, dans l'idée, avec une perche.
Ouais.
Dans l'idée, c'est simple, le mec réussit à rater le cochon, et du coup, il y a un raptor qui embarque sa perche et va faire chuter le noob. de 5-6 mètres.
Qui devrait ne plus bouger d'ailleurs.
Oui. Dans une scène qui paraît être en violation avec le code du travail quand même.
Bah normalement, dans une situation.
Ah, mais il n'y a rien là. Il n'y a pas de.
Omar Sy, là, normalement, il faisait le remake d'Intouchable avec lui. Il était en fauteuil et puis c'était parti.
Aucun EPI, rien du tout. Enfin, c'est n'importe quoi.
Et puis il tombe comme une merde en plus. Hein.
Oui,
vraiment, tu vois bien s'écraser.
Hein.
Ouais. C'est abusé. C'est-à-dire que l'inspection du travail, si elle arrive, le mec, il récupère un cochon avec une perche avec des raptors en dessous. Enfin, c'est pas.
C'est mort.
Ouais, c'est un peu mort, quoi.
Là, ce qui est problématique, c'est que le fameux noob se retrouve dans l'enclos avec les quatre raptors qui sont en train de se dire « Oh bah, nickel, mon Uber Eats vient d'arriver. »
Mais Chris Pratt est là.
Et là, il y a Owen.
Owen dit « Non, ouvrez les portes, j'y vais, bro. »
Owen, c'est un héros comme on n'en fait plus. Et le petit mec qui vient d'arriver, il va plonger dans l'enclos pour les sauver.
Bah oui, normal.
Mais là, on voit bien quand même la relation qu'il a avec ses raptors. Il arrive à les stopper alors qu'il est face à face. Là, pour le coup, c'est la première fois qu'il est face à face. Il va rappeler la scène de fin, d'ailleurs.
Il a toujours son petit bip-bip, d'ailleurs.
On se moque, mais
non, il n'a pas son bip-bip.
Peut-être arriver à dresser un raptor pour qu'il ne mange pas les gens. C'est ça la vraie.
Ah, ça, c'est chaud, ouais.
Ouais. J'avoue que ça demande
c'est
un petit talent.
C'est peut-être ça le vrai talent.
Et
ouais.
Ça reste quand même assez réel, je trouve, parce qu'au final, il a bien conscience que dès qu'il va bouger, elles vont sauter sur lui. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il reste statique, il attend. Et là, il dit à Omar Sy, baisse la grille. Et donc là, il court et il se jette sous la grille. Et là, elle se jette sur lui, hein, quand même.
Je sais que c'est l'une des scènes clés du film. Au moment où tu vois Chris Pratt, donc Owen, qui est en train de dompter 4 raptors, c'est l'une des scènes clés qu'ils ont vendues dans la bande-annonce. De toute façon, c'est le truc qui a marché, quoi.
Ah, oui, avec sa petite passe de Jedi, là, je tends le bras.
Le plan où il tend le bras, ouais, c'est clairement dans la bande-annonce. Ça doit faire partie des scènes fortes du film.
Donc, il réussit à sauver le noob.
Oui, ils sous-entendent quand même que c'est pas la première fois que quelqu'un meurt dans le truc. Hein.
Lui, il dit il n'y a pas une place à pouvoir. À pouvoir, pardon.
À Poulvord.
À Poulvord, ouais.
Ils lui disent à ce moment-là.
Je t'ai jamais demandé qu'il y avait une place à pouvoir.
Ça veut dire que c'était difficile.
Retour avec les deux frangins qui continuent de se balader dans le parc et profitent du manque de vigilance de la collègue, de Claire, pour s'échapper et visiter ce qu'ils veulent. Chose que je trouve totalement débile, ils ont un pass VIP.
Oui. Elle les suit n'importe où.
Bah oui. Pourquoi s'échapper ?
Pourquoi sans... Oui, je comprends.
Bande de débilos. Ouais. Alors, le hasard faisant bien les choses, c'est que pendant que les deux gamins s'échappent de la surveillance de l'assistante de Claire, il s'avère que la mère des deux gamins décide de les appeler. Et là, la mère, elle comprend que Claire, elle n'est pas du tout avec eux. Donc, du coup, la mère, elle décide d'appeler Claire et de lui faire une petite leçon.
Voilà. Et elle sait très bien, la mère des deux gamins, qu'en laissant les deux ensemble, ça va un peu se friter, quoi, en gros.
Claire, elle le sait pas, mais franchement, à sa place, j'aurais dit écoute, gère déjà ton divorce, tu vois, casse-moi les couilles. Ouais, et puis, je te rappelle que tu me foutais deux gamins dans les pattes alors que j'ai quand même plus de 20 000 personnes et des dinosaures à gérer, donc de quoi tu me parles, toi? Donc en parlant de Claire, en fait, elle débarque pour trouver Owen et une pub Coca-Cola plus tard.
Et Mercedes.
Exactement, tout à fait. Bah, les deux vont de pair. Ouais. On comprend qu'Owen et elle ont une liaison ensemble et que, du coup, entre eux, il y a une petite odeur de c'est pas encore fini, quoi.
Pas de liaison. Pas liaison.
Non, non,
ils ont eu un premier rendez-vous.
Ils n'ont jamais réussi
à
conclure.
Tu comprends que ça n'a pas été consommé, quoi, jusqu'au bout, mais tu sens qu'ils ont peut-être envie. Par rapport à leur fion qui s'envoie dans la gueule.
Franchement, c'est un truc de collégien. Parce qu'on est d'accord qu'il n'y a pas eu de consommé de près ou de loin.
Maintenant, elle n'a pas bu de tequila, d'ailleurs, il le dit. Vraiment, il fait la remarque qu'elle n'a jamais bu et pas bu de tequila.
T'imagines le rendez-vous.
Dis le mec qui est en Bermuda, quand même. Franchement, ça en dit long.
Bah, je sais pas, toi, t'es fan de Chris Pratt, donc en même temps.
Il est en Bermuda, quand même. Là, tu vois,
Ah, d'accord. Le Bermuda, c'est rédhibitoire.
Chris Pratt en Bermuda, c'est mort.
C'est rédhibitoire.
Okay. Je suis déguisé en allemand, regarde, j'ai un Bermuda, une sacoche et des Birks.
Par contre, Chris Pratt qui fait la gueule parce que tu veux pas boire de tequila, là ça va.
Ouais.
Ok. Parce que c'est plus ou moins ce qu'il lui dit. Hein.
Le rendez-vous a dû être pourri. Attends, la meuf, déjà, ils ont pas conclu. Elle a même pas bu de tequila.
Mais
wow,
je sais même pas comment
j'ai l'impression que c'était vraiment une soirée de merde.
Un petit peu à la base, quoi.
Donc là, en tout cas, on nous dépeint deux personnages, à savoir Claire qui est assez froide, rigide, dans les règles, super relou. Et on a Owen qui, lui, est un petit peu le chien fou à l'arrache et qui a envie de ken, quoi.
La scène est incroyable. C'est quand même genre le mec qui est dans une caravane, qui est en train de retaper sa moto en t-shirt avec son petit gilet sans manches en cuir, quand même.
Il manquait plus que la guitare, j'entends du Nirvana. Break me.
Son t-shirt est parfaitement humidifié, tu vois.
Bien sûr.
Les pecs saillants.
Équipé des petites bagues de beauf, quand même.
Ouais. Oui, il est très beauf.
Il est très très beauf dans cette scène.
Et il arrive à récupérer une mouche à une main, d'ailleurs.
Ah ouais. Mais elle est incroyable, cette scène.
En même temps, il fait peut-être des vannes de beauf, mais elle a une tête de beauf. Elle, franchement, elle a une tête. Oh la vache. Un orteil.
Mais qu'est-ce que t'as contre
cette
personne?
Je la trouve dégueulasse. En tout cas, elle lui demande de venir pour inspecter la fameuse clôture de dinosaures ultra vénères qu'ils ont créée, soit la demande de son boss, en fait. Et là où Owen, il arrive au niveau de la clôture de l'IREX. Il n'est pas dans l'enclos, mais il est dans le truc protégé pour pouvoir justement regarder l'enclos. Et il s'avère que lorsque les caméras lancent une détection thermique, parce qu'en fait, Owen, il commence à dire, je la vois pas, moi, ta bestiole, elle est où? Et puis Claire, elle commence à dire, je vais lancer la détection thermique pour voir où ça en est. Et là.
Et donc là, t'as le mec qui est assis à son bureau, qui est censé surveiller à peu près les détections thermiques. Qui a l'air d'être un gros boulot, ça, clairement, on peut le dire. Non, mais un peu le cliché du gardien qui
en bouffe
a
des
clairement
donuts,
rien à foutre avec la chemise un peu débraillée, enfin voilà. Et comme par hasard, il fait « Ah bah oui, bah clairement, oui, il y a un problème, j'ai pas de détection thermique non plus, tu vois, où est-ce qu'elle est ?»
Et là, t'as Owen qui commence à dire « Attends, pas de détection thermique, ça veut dire qu'elle est pas là. » Il commence à regarder à travers la vitre triple blindage, des traces de griffes au niveau du mur et commence à dire « Attends, ne me dis pas qu'elle a escaladé et qu'elle s'est arrachée. » Et là, mouvement de panique.
Oui. Donc Claire, en tant que directrice, panique complètement et donc décide de prendre sa voiture pour aller appeler le PC sécurité.
Alors qu'elle ne peut pas l'appeler.
Je ne sais pas pourquoi elle fait ça.
Non, mais peut-être que ça captait pas.
Oui, alors il n'y a même pas une ligne téléphonique classique. Clair.
Elle les appelle. Parce que dans les Mercedes, il faut savoir qu'il y a une antenne 3G, 5G.
Mais ça me paraît ouf qu'il n'y ait même pas un espèce de radar pour la localiser directement à même le QG de l'enclos.
Mais parce que ce sont tous des guignols et qu'ils n'ont pas appris les erreurs du.
Il n'y aurait pas de film en fait.
Elle s'arrache, elle part en voiture, elle téléphone au QG central pour dire écoutez, tous les dinos ont une puce GPS, localisez-la moi.
Voilà. C'est ça, et donc le PC lui dit en fait elle est dans l'enclos. Enfin, la puce GPS est dans l'enclos.
Mais ceci dit, il y a un problème maintenant.
Oui, parce qu'entre temps, vu qu'ils sont tous intelligents et que Owen, qui a fait un BEP ruse animale et diversion et machin, se dit tiens, je vais aller dans l'enclos plutôt que d'attendre de savoir où elle est, ils rentrent dans l'enclos. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont deux ou trois dans l'enclos et puis ils se disent putain. Il y a un gros truc qui bouge là. Merde, elle est dedans.
C'est quand même dingue que l'espèce la plus intelligente soit le dinosaure et pas l'homme, quoi.
Bah oui, carrément. D'autant que le mec est venu parce qu'il est justement spécialiste de la diversion et de la ruse animale. Il est venu pour ça. C'est pour ça qu'il l'appelle parce qu'il sait que les animaux, ils peuvent des fois être torts et tout.
Non, mais il y a des choses que tu peux pas savoir.
Après, là où je rejoins Sophie, c'est que.
Merci Thomas, j'allais le dire.
Le côté. Tu
m'as soutenu.
Non, mais là où je peux rejoindre Sophie, c'est que tu dis, a priori, t'es censé être sûr que la bête n'est pas là et tu vois des traces de griffes au mur. Tu dis, visiblement, elle est escaladée. Par contre, là où je rejoins Charlie complètement, c'est que la nana, à quel moment elle est obligée de monter en voiture pour téléphoner.
Attendre 30 secondes que les gars te disent, écoute, on a une puce GPS dans l'animal.
Mouvement de foule. C'est-à-dire que j'ai ma directrice qui est en train de dire, oh putain, elle s'est échappée, il faut que j'aille au QG pour savoir où elle est. Moi, dans ma tête, je me dis, elle est plus dans l'enclos.
Bah, du coup, qu'est-ce qu'ils vont foutre dans l'enclos alors?
Vérifier les griffes, c'est ce qu'ils disent.
T'en fous si elle s'est échappée? Non, mais ce mec, ça n'a aucune logique.
Savoir qu'elle est aussi intelligente que ça.
C'est vrai, ça, par contre.
Tu gères des animaux sauvages, tu prends tes précautions.
Parce qu'on saura à la suite du film qu'elle est vraiment intelligente quand même.
C'est que là, arrive un moment, Claire, au QG, ils sont en train de lui dire, non, mais en fait, pour nous, chef, elle est toujours dans l'enclos. De là, Claire. Elle essaye de joindre le fameux garde mangeur de donuts en lui disant les gars, elle est toujours dans l'enclos et comme par hasard, la transmission ne passe pas vraiment.
Oui, ce problème de 5G.
De 5G, c'est ça.
Ils font le rapprochement assez vite quand même. Quand il y a un gros truc qui commence à faire.
Oui,
ils disent,
dites donc, Claire.
C'était un petit peu tard, tu vois.
Vous n'étiez pas en train de me dire que le dino serait toujours là par hasard?
Parce que soit le gros mangeur de donuts, il marche vraiment avec les talons, ou alors il y a un truc qui pèse 5 tonnes.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début de la scène, tu sais très bien qu'il va se faire bouffer celui-là.
Pourquoi?
Parce que franchement, il est débraillé, il est horrible. Enfin,
j'ai l'impression qu'il t'a marqué.
Il m'a un peu marqué.
Mais
j'avoue
dans tout bon film blockbuster.
Valentin, quand il a regardé le film, il dit mais regarde-moi ça, sa chemise, elle est même pas repassée.
Regarde-moi ça, il est en surpoids, putain, il va croire.
Toujours est-il là le fameux gros gardien avec sa chemise débraillée, il se dit oh là là, attends voir, il y a un gros dino là derrière moi, nique sa mère, moi je m'arrache, et il ouvre la clôture.
Alors là, il tape le sprint de sa vie. Vraiment le mec.
Tout ce qu'il a pas couru au collège, il vient de le faire.
Ouais, il a le tournevis qui tombe sur le sol, il s'en bat les couilles, tu vois.
Clôture, je sais pas si c'est le mot. Il ouvre la porte blindée.
Parce que moi je suis métallier. Je peux dire que ça, c'est une putain de porte blindée, ok.
Qui va être une petite erreur stratégique. Dans le sens où lui, il arrive à passer. Là, t'as Chris Pratt qui dit, donc t'as Owen qui commence à dire, vas-y, je vais le suivre, mais moi, il faut que je ferme la porte. Il s'avère que la porte n'a pas le temps de se refermer jusqu'à temps que l'IREX arrive et bousille littéralement la porte lui laisse maintenant la possibilité d'être en liberté.
Elle mange un figurant quand même entre temps.
Oui.
Et après, effectivement, elle arrive à sortir par la porte très légèrement entrouverte.
Elle mange le costaricien d'ailleurs.
Oui, costaricien, ouais. Oui, ouais, bien sûr.
Et là, en fait, elle a le choix parce que il y a notre gros sergent Donuts qui est caché juste à côté d'une portière de voiture.
Alors là, c'est le premier, enfin le premier ou le troisième à peu près. Le 25e, ouais, c'est clair. Clin d'œil à Jurassic Park. Du coup, il se cache derrière la bagnole parce qu'il croit vraiment qu'il est vraiment caché à ce moment-là. Et le T-Rex, enfin le l'Irex, pardon, bah, tège la bagnole. Ouais. Qui est encore une Mercedes d'ailleurs, et se fait bouffer.
Et là, t'as... Et...
C'est vrai que le mec est planqué un peu comme un comme gamin merde, est planqué quoi, derrière clairement. Un rideau avec les pieds qui dépassent.
Ah, quoi, non, tu c'est vois, ça. C'est... Et là, t'as Owen qui se dit attends voir, parce que moi je vais essayer quand même de mieux me planquer. Donc lui, il est pas con, parce qu'en même temps, il vient de la Navy.
Il est hyper intelligent. Hein. Ah, bah il est sous la voiture, il comprend que s'il fait pas quelque chose, il se fait bouffer. Donc du coup, il coupe un tuyau avec l'essence qu'il y a dedans.
Il est sous une voiture.
Il est sous une voiture. Et donc du coup, il s'étale toute l'essence sur tout son corps pour enlever son odeur corporelle et sentir uniquement que l'essence. Et c'est ce qui le sauve, parce que c'est ce qui fait qu'il ne se fait pas bouffer.
Pas con, on empêche.
On est d'accord que la RX, elle se prend la tête pour pas grand chose parce que à échelle humaine, c'est juste une cacahuète, Owen.
C'est à bouffer.
Ah bah n'importe quel humain est une cacahuète.
Ouais, ouais non, d'accord.
C'est l'apéro quoi. C'est...
Franchement, si j'ai faim, je vois une cacahuète qui bouge un peu, je vais quand même.
Non mais là, fondamentalement, c'est comme si toi à l'apéro, t'as ta cacahuète qui roule sous le canapé et que tu te casses le cul à la récupérer en dessous du canapé.
Si c'est la dernière cacahuète, ouais.
Regarde autour de toi, hein. Il y a autre chose sur la table, hein. Donc tu peux y aller. Hein. Du coup, on retourne sur Claire. Claire qui arrive au QG. Et au QG, bah, c'est pas la joie.
Ah, c'est la fête. Hein.
Ouh, quelqu'un s'est fait manger. Comme dans le premier parc.
C'est tendu. Là, on sent que ça commence à... la situation commence à être délicate.
Donc là, elle rentre dans le poste de contrôle.
Ouais.
Et clairement, quand elle rentre, il y a tout le monde qui se tait. Quoi.
Ah oui.
Ça, c'est vraiment la merde. Quoi. Tu comprends que il se passe quelque chose. Quoi.
Ouais.
Bah ouais, ils sont tous un peu dépités parce que bon clairement ils le connaissaient pas le mec qui est mort mais
oui mais par contre ils connaissent le dino qui est relâché quoi.
Ils en ont rien à foutre.
Et donc ouais, ils commencent à se dire bah il faudrait peut-être qu'on prévienne les gens.
Ouais.
Qu'on commence à fermer le parc quoi tout doucement.
Il y a 21 000 personnes dans le parc.
Voilà. Et là le PDG, enfin le propriétaire, donc Mastrani, lui dit non mais on va pas créer de panique. On a une équipe de sécu.
Ouais.
Voilà, qu'on a
d'intervention,
ouais, des agents de sécu là qu'on a
4 vigiles. Voilà. 4 Kiwoki bien chargés.
Exactement.
Ça va le faire.
Ils sont capables de s'occuper d'un truc de 20 tonnes et 15 mètres de haut. Ouais, je pense.
Ce qui est un petit peu audacieux quand même, hein.
Mais ils pensent un peu à la rentabilité de son parc aussi. Tu vois, s'il commence à tout fermer.
28 millions de dollars quand même, hein.
Pour créer la bête.
Oui, c'est pour ça qu'ils veulent utiliser des armes non létales. Ouais.
Ouais.
C'est encore une très bonne idée.
Oui, encore une très bonne idée.
C'est clair. Et là, pour le coup, on nous apprend que en fait, l'IREX, il est à 6 km de la foule.
Ouais.
Dans l'idée.
Ouais, donc,
attraction où il y a des visiteurs qui peuvent se balader. Quoi.
Donc, autant dire que s'il y a une solution à trouver, il faut la trouver quand même rapidement. Mais visiblement, le but étant de conserver au maximum les visiteurs pour qu'ils puissent continuer à acheter des goodies.
À ce moment-là du film, ils ont pas trop l'air inquiets. Enfin, si, ils sont inquiets, bien
mais
sûr.
Mais ça va quand même, je trouve.
Va,
ouais.
Vois, mais
à 7 dollars, la boisson fraîche, je pense qu'ils s'en foutent. Hein.
Non, mais clairement, c'est ça. Là, on retrouve Omar. Donc, il est accompagné de Hoskin. Hoskin, donc le fameux gars qui voulait militariser les dinosaures, tout ça. Bon, bah, tu comprends que lui, il veut vraiment récupérer les dinosaures.
Je comprends qu'il est un peu dérangé quand même. Parce qu'il lui raconte une petite anecdote.
C'est quoi
Alors, une fois, j'ai recueilli un bébé loup. que j'ai élevé comme un chien et
qui a bouffé ma femme, mais
voilà,
c'est pas grave.
Non, et un coup ma femme s'est approchée de moi avec un couteau à viande parce que je voulais découper un gigot et il l'a mutilé. C'est à dire il a bouffé le bras et
il a gardé
coup,
le bébé
voilà, et du coup ce que j'ai fait j'ai gardé le bébé, j'ai viré la femme.
Normal. Ouais, et ben écoute, tu me parais totalement stable et équilibré. Je vais écouter.
Ton idée de militarisation de Velociraptor, ça me paraît trop.
J'adore.
C'est vrai qu'un mec aussi stable, c'est logique qu'il soit à ce grade-là. Tu vois.
Et on parle les raptors quand même à des bébés loups.
Oui, aussi, oui.
Parce que dans sa tête, c'est la même chose.
Ouais, oui, clairement, on n'a pas vu le livre de la jungle, hein, parce que je peux te dire que il y aurait une différence s'il y avait des raptors qui avaient élevé Mowgli. Ça, c'est clair.
Pas de loup dans le livre de la jungle.
Bien sûr que si, bon. Mec, ceux qui élèvent Mowgli, ce sont des loups.
Des loups dans la jungle.
Bah oui, c'est des loups. Mais dans l'île de la jungle, c'est des loups qui.
Et ce sont des
mais c'est loups qui élèvent Mowgli, hein, dans l'île de la jungle.
C'est des loups gros, hein, qui élèvent.
Il y a des loups dans la jungle.
Mais enfin, mais si mais refais ton enfance, hein, Charlie.
Ça n'a
pas du tout. Mais c'est des loups qui élèvent Mowgli.
Bien sûr.
Ok. Donc il y a des loups dans la jungle.
Oui, oui.
Il s'appelle.
Faut survoir tes classiques.
Il s'appelle Mowgli d'ailleurs.
Ok, non mais autant pour moi. Non mais ça fait très longtemps que j'ai pas vu le livre dans la jungle.
Ah parce que j'ai vu que tu me prenais de haut là. Bref, donc là, il y a Omar, il est avec Hoskin. Finalement, Omar, il reçoit un coup de talkie-walkie en disant putain mec, on a un code 19. C'est quoi un code 19?
Unité hors confinement.
Donc grosso modo, en fait, si tu veux, ils savent qu'il y a un dinosaure, il a pas signé sa petite attestation.
Il a pas mis son masque non plus.
Il a pas mis son masque non plus.
Ouais, rien à foutre, le gouvernement, je l'emmerde. Le vaccin, la 5G, tout ça.
C'est clair. Eh, vous m'aurez pas, d'accord. Donc là, on sent qu'il y a un dinosaure complotiste qui est lâché à moins de 6 km de la foule. Donc il est important de le choper. Et là, Omar, il s'arrache, laissant les raptors emprisonnés dans leur cage. Et là, Hoskins, il dit, attends voir. Il passe un mystérieux coup de téléphone en disant eh, finalement le plan qu'on avait ça va peut-être arriver plus tôt que prévu, donc tu comprends que lui ça va être une salope.
Il attendait la bonne opportunité quand même, il voulait pas libérer lui-même.
Tu comprends avant que c'est une belle salope quand
mais là t'en es sûr
mais il a la tête d'une salope aussi, non?
Oui. Juste après on va switcher avec les frangins, et oui les frangins ils sont en train de comprendre que oui, la vie est une pute.
Oui.
Parce que les parents divorcent.
Et le grand, l'ado, drague encore et encore. Ouais. Il a toujours oublié. Il a toujours pas pensé à sa copine.
Il est malaisant, cet ado, je te jure.
Ah oui,
mais c'est un ado.
Non, mais il drague pas.
Mais
en
t'étais
fait,
comment
il
à
fixe,
7 ans
il fixe comme ça en regardant, tu vois.
Il lui fait des sourires.
Ah, mais je regarde pas. J'essaye pas d'hypnotiser les gens en pensant que j'avais un super pouvoir.
Mais ouais, ça me choque pas. T'as oublié comment t'étais à 16 ans, 17 ans.
Non, t'es pas trop choqué non plus encore.
Non, et puis t'as les questions du petit frère qui commence à avoir des doutes sur
les parents.
Sur la fidélité ou la solidité des parents.
Oui, parce qu'il a déjà capté, parce qu'il est très intelligent.
J'ai eu un papa qui se faisait sucer par la voisine. Ah, ça peut être un bon début, ça. Oui, c'est vrai.
Il recevait des lettres d'avocats différents, etc. Et c'était spécialisé dans le divorce parce qu'il s'est renseigné. Et tout, donc là on sait qu'il y va.
Il s'est renseigné.
Ouais, il s'est renseigné.
Oui, mais
sur
il est intelligent.
Spécialiste d'avocat dans le
il est intelligent.
Non,
il est
mais agaçant. Lui à l'école,
moi
il
je me retrouve en lui
droite.
Petite. Oh là là. Je faisais pareil.
Ouais, bah, tu t'es fait bolosser ton petit, hein, d'accord.
Ouais,
bah voilà, bah cherche pas plus loin. À ce moment-là, le petit il est persuadé de vivre sa pire vie. Ouais. Tu vois, et il est bien loin de s'imaginer ce que la vie lui réserve encore.
Ah bah,
parce que la vie est généreuse en termes de cadeaux.
Quand on se poursuit par un dinosaure, on relativise un peu.
Ah bah bien sûr.
Oui, c'est clair.
Donc là, du coup, en parallèle à ça, t'as Owen qui arrive au QG et il est vénère parce qu'en fait, il veut comprendre comment ça se fait que le gros dinosaure était indétectable en thermique tout à l'heure dans l'enclos. Mais surtout, il assiste à la fameuse opération militaire. C'est quoi cette opération ?
Bah, c'est une équipe de bras cassés qui vont essayer de capturer donc un éléphant.
C'est les fameux 4 vigiles,
voilà.
Un éléphant avec des sarbacanes, quoi.
Bah ouais, avec trois strings ficelles en fait. Ils vont, enfin, je sais pas, ils ont des tapettes à mouche et ils essaient de lui envoyer. Et à aucun moment, ils se disent, bah, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Donc le dinosaure qui est plus gros, plus méchant, plus intelligent, plus féroce que prévu.
Pour voir ça, en fait, chaque pseudo mec de la milice a une caméra sur eux. Alors, ils ont une caméra sur eux et ils ont aussi un battement de rythme cardiaque.
Ouais.
Voilà, comme ça tu sais un petit peu.
Que tu vois souvent dans les films poursuivre les équipes un peu d'intervention et tu te rends compte que le super méchant est méga fort parce que t'as les lignes de vie qui s'éteignent au fur et à mesure.
Parce que là, concrètement, au niveau du QG, tous les écrans correspondent à la caméra d'un des types qui est là, qui est sur place avec son rythme cardiaque.
Et donc, ils lancent l'assaut, quoi.
Ouais.
Donc, ils vont au point GPS de la balise.
Oui.
Ils retournent un espèce de bout de chair, tu vois. Et là, ils voient un énorme truc, mais vraiment une balise GPS de ouf. Et ils se disent, tiens, c'est pas normal parce qu'elle a réussi à retirer la balise GPS de son corps. Quoi,
ça, c'est compliqué à entendre.
Sur le point GPS, ils sont censés trouver un dinosaure autour de l'implant GPS, tu vois.
Et pas une espèce de bout de barbac, à faire un barbecue et à régaler toute la famille.
Oui, voilà. Sauf que là, il reste qu'un morceau de viande avec l'implant GPS.
Donc là, tu comprends en gros que le dinosaure est bien intelligent. En gros, qu'il s'est souvenu où était implantée la puce GPS, que c'était encore étranger, qu'il fallait qu'il l'extrait.
Alors ça, c'est marrant parce que au moment où il voit la capsule GPS, tu vois, là, tu te dis, tout le monde se dit, nous, en tant que spectateur, en disant, attends, mais pourquoi c'est arraché ça? Et là, t'as Owen qui commence à dire, elle a dû se souvenir du moment où lui avait mis quand elle était jeune, t'as envie de dire, oh.
Quand même.
Ah, ça c'est dur à entendre. Ça, je suis désolé, Sophie.
Elle est intelligente.
Qu'elle se souvienne du moment, c'est pas le plus gros.
C'est pourquoi elle l'a enlevé là.
C'est le concept du GPS, tu vois. Qu'elle arrive à
la localisation.
Saisir toutes les nuances du GPS.
Je pense qu'elle savait pas que c'était un GPS. Elle savait juste qu'elle avait un truc à cet endroit.
On peut aussi laisser couler et se dire que, genre, voilà, il y avait un truc qui l'est gratté, tu vois.
C'est la Suisse, Valentin.
On laisse pas couler. Je suis désolé. Je ne laisserai pas couler.
En tout cas, toujours est-il, voilà, la fameuse IREX n'a plus de GPS. Et en plus, on comprend rapidement que les mecs, la fameuse milice, ça va être ni plus ni moins que des apéricubes en fait pour la race, parce qu'elle est toujours dans les coins et elle se met à tous les déboîter. Et dans le QG, on voit ça comment? Parce que toutes les caméras sont en train de se couper une à une, et puis les capteurs.
Et puis les lignes de vie sont en train de.
Le capteur cardiaque, et donc là, c'est compliqué, et toute l'équipe est mise au sol. Et là, Owen, il pète un câble, il va voir le Big Boss et il lui dit ça.
Faites évacuer l'île.
Bonne idée.
Ce serait la fin du parc.
Ah, oui.
Un hybride génétique créé en labo, qui a grandi en captivité. Tout ça, elle le découvre pour la première fois. Elle ne sait même pas ce qu'elle est. Elle va tuer tout ce qui passe à sa portée.
Tu m'étonnes.
Vous croyez qu'elle se pose ce type de questions existentielles?
Elle cherche sa place dans la chaîne alimentaire, et je suis pas sûr que vous ayez envie qu'elle la trouve. En cas de force majeure, l'unité confinement peut tirer à balles réelles. Vous avez en stock un M134, équipé un hélico avec, et fumez ce truc-là!
Il y a des familles, et je ne vais pas faire de Spark une espèce de zone de guerre.
Tu l'as déjà fait.
Monsieur Grady, si vous ne nous aidez pas, rien ne justifie votre présence.
Je comprends même pas qu'il y ait discussion, en fait.
Bah ouais, là...
Et là, punchline.
C'est la deuxième erreur.
Si j'étais vous, j'irais dire deux mots aux gens du labo. Cette chose-là dehors...
C'est pas un dinosaure.
C'est pas un dinosaure.
Et bah, très
ça
clairement.
J'ai trop envie de le revoir.
Hein. Ah, la scène-là elle fonctionne bien. Et là, t'as Owen qui s'arrache, laissant Claire fermer toutes les infrastructures.
C'est elle qui prend les décisions, ouais. Mais elle fait ce qu'il lui a dit quand même.
Oui.
Au final. Donc, oui, ça valait bien le coup du. Non, non, l'amour. Mais c'est moi qui prends les décisions. Ouais. Ouais, tu parles l'amour de rien du tout.
Je veux boire du vin, c'est moi qui décide. On prendra du vin. Ouais, super.
Super. Ça fait plaisir.
Alors là, pas de bol, parce qu'on retrouve les deux frangins qui vont dans une attraction, à savoir, tu te mets dans une espèce de grosse bulle en verre. Pour pouvoir te balader un petit peu. Et là, les deux.
Un gyrosphère.
Un gyrosphère, oui, tout à fait.
Gyrosphère, ouais. Oui.
Et là, les deux frangins, ils rentrent dedans. Et pile poil, quand ils rentrent dedans, ils commencent à partir.
Et là, t'as le guichetier, d'ailleurs, qui a l'air d'être un gros bebeu, hein,
ouais,
clairement. On peut le dire, il a la tête pour, clairement. Oui. Qui annonce juste après que les frangins soient partis, que l'attraction est fermée. Et qu'en gros, il faut évacuer à peu près tout le nord de l'île, quoi.
Mais ça, c'est marrant parce qu'il a l'indication qu'il faut fermer l'attraction. Il connaît plus ou moins la raison. C'est qu'il y a un gros débordement. Oui. Et il y a une boule de verre qui vient de partir juste avant. Il se dit pas, tiens, faut que je la rappelle, faut que je la ramène.
Ah, si, mais après, il diffuse un message dans la gyrosphère en leur disant rentrez.
Oui.
Ouais.
Bon. Oui, c'est vrai.
Mais ils s'écoutent pas du tout, ils s'en fichent.
Ouais, d'ailleurs, dans la gyrosphère, vous avez remarqué l'apparition de Jimmy Fallon, d'ailleurs.
Qui a dû prendre son petit billet, lui.
Qui a dû prendre un peu de mal, je pense.
C'est grâce à lui qu'on comprend comment ça fonctionne une gyrosphère, comment c'est fait.
Qu'est-ce qu'on apprend vite fait sur la gyrosphère
pour surtout, moi, je vois un truc comme ça, je me demande comment ça fonctionne.
Si tu pètes dedans, l'odeur, c'est ma porte.
Qu'on ne peut pas respirer au-delà de 30 minutes.
Qu'il faut pas manger de raclette avant.
C'est mort. En parallèle à ça, on apprend le pourquoi du comment, la fameuse. Zyrex n'était pas détectable par les capteurs thermiques parce qu'en fait c'est une grosse partouze la concernant.
Bah parce que le fameux Masrani, donc le propriétaire, après s'être fait conseiller par Wen, il va voir le labo et il leur dit vous avez foutu quoi en fait dans le frangin.
Ah c'est quoi votre cocktail parce que je suis bien bourré là.
Et donc il lui dit il y a un peu de T-Rex, il y a un peu de sèche pour le côté camouflage, il y a un peu de grenouille arboricole pour le côté détection thermique, et il y a un peu de Gérald Darmanin pour le côté Derek Lac, quoi. Et donc, on revient sur Claire, là, qui est dans son PC sécurité où tout le monde est en panique, il y a un dinosaure qui va commencer à bouffer les gens. Et là, elle mate une caméra de sécurité, elle voit une mère avec son gamin, elle se dit, putain, oui, bien sûr, ça fait maintenant 11 scènes que mes neveux se sont échappés de la surveillance de
la
mon assistante.
De l'année.
Assistante qui n'a rien dit du tout, d'ailleurs, qui a essayé de masquer son...
Camoufler ça, comme elle
masquer son erreur. Et donc, elle se dit, tiens, je vais peut-être appeler l'assistante. Et du coup, qui lui dit, alors vous allez rire, en fait, mais je les ai perdus de vue.
Vous m'aviez donné deux trucs, et j'ai perdu les deux, dites donc. C'est dingue, hein.
Ah oui. Je peux te dire qu'elle va se faire virer.
Et pourtant, il y en a un qui s'arrête tous les 50 mètres pour mater des meufs dans les yeux pendant 3 minutes. Mais j'ai réussi à les perdre.
Là, du coup, Claire, elle se fait du souci, elle a raison de s'en faire, parce que figurez-vous que l'Irex va se tomber nez à nez avec justement les deux frangins dans leur boule de verre. Et va se dire, attends voir, si je tapais un foot avec ça pour essayer.
Elle prend cher la gyrosphère,
dans
le combat. Parce que l'Irex est en train de combattre un autre dinosaure
d'ailleurs, en même temps,
qui ressemble un peu à une tortue, clairement. Ouais. Une grosse tortue avec une énorme queue.
Exact.
Et clairement, le gyrosphère se fait dégager du combat.
Ouais.
Mais là, on voit quand même que l'Irex, elle est intelligente. Parce qu'elle n'arrive pas à tuer
le dinosaure. Du coup, elle la retourne.
Ouais.
Et là, elle comprend que c'est son point faible. Et bam, elle la bute.
L'Irex, pour le coup, tu sens qu'elle évolue au fur et à mesure. Elle est en train de prendre en XP, quoi.
Ah elle prend l'âge
en
minutes
XP,
de film, je pense qu'elle a pris 60 ans.
C'est clair. Wow. Et là, par contre, où elle va être débile, c'est qu'une fois qu'elle a pété les dinosaures, elle revient sur la sphère des frangins, et elle essaye de la gober. Ouais. Alors, elle est aussi conne qu'une personne qui essaye de gober une ampoule. Hein. Quand ça reste coincé dans la bouche, c'est exactement ça. Donc, ceci dit, elle s'énerve après, elle arrive à la péter, et là, les deux frangins, obligés de s'arracher pour éviter de tomber nez à nez avec l'Irex, ils décident de sauter par-delà une cascade.
Alors, ils font quelques mètres quand même. Ouais. Et ensuite, oui, ils arrivent au-dessus d'une cascade. Et là, t'as le frangin qui emmène le petit frère.
Réflexion totalement conne du petit. Et,
qui dit, non, mais je vais rester là, je vais me faire bouffer. Okay,
le grand, il commence à lui dire, viens, il faut qu'on saute. Et là, le petit commence à dire, quoi, mais sauter, mais t'es malade ou quoi? Non, non, mec, ce qui est malade, c'est si jamais tu restes alors qu'un putain d'Airex arrive droit sur toi, quoi.
C'est clair.
Les deux sautent.
Donc les deux sautent, ils restent un peu dans l'eau parce que le grand frère capte qu'en gros, si l'Airex les voit, il va sauter aussi. Enfin, elle va sauter aussi, pardon, c'est une femelle.
Oui, c'est une femme. Ouais, qui fout la merde.
Toutes les femmes.
Et du coup, ils arrivent à s'évader un peu comme ça, quoi.
Sur ces entrefaits, comment Claire, alors oui, toujours très amusant,
oui.
qui a compris que ses neveux étaient en danger, appelle le service de sécurité en disant bah écoutez les gars, ce serait bien que vous alliez récupérer les deux personnes que j'ai perdues, qui sont de ma famille,
s'il vous plaît.
Et ils lui disent bah on a autre chose à gérer là, parce qu'on est en train de fermer le parc, donc
je sais pas si vous êtes au courant, il y a un gros dino qui est parti en vrille,
donc des merdes totales. Et là elle se dit, oh, alors je viens d'envoyer péter le seul mec qui pourrait m'aider, mais je vais quand même retourner le voir en lui disant écoute,
mon petit Owen,
voilà. Bon, malgré le fait que tu pues l'essence, il y a quand même.
Puis en plus, ça va faire rager Sophie, donc bon.
Voilà, c'est clair. Je suis pas toute seule sur le coup.
Allez, on y va.
Viens m'aider à retrouver mes neveux.
Il accepte hein, quand même. Ouais. Hein. Malgré le fait qu'il vient de se faire virer, le mec.
Voilà.
C'est la tension sexuelle, ouais. Et tu vois, il a trop.
Ah, moi j'aurais dit au sentiment, tu vois, ça parle d'enfant, mine de rien, ça le touche quand même. On laisse pas
mais
des enfants.
Il y a quand même un malaise parce qu'il lui demande quel âge ont ses neveux, elle est incapable de répondre.
Ouais.
Et donc
ouais.
Là, il y a. Owen et Claire, du coup, qui arrivent en Mercedes, Jeep.
Ah bah, toujours.
Mercedes, sûrement.
C'est des Mercedes, toujours.
Et qui découvrent un terrain avec plein de diplodocus, visiblement blessés.
Ouais.
Et
ouais,
t'as la séquence émotion du film.
Parce que
t'as
un diplodocus, en fait, qui est en train de mourir,
ouais.
Clairement. Et t'as un peu de peine pour lui, quoi, clairement. Il vient de se faire défoncer.
C'est
il est en train
pied.
De se... Ouais, c'est petit pied, oui, c'est vrai.
Petit pied, mais gros coup de griffe.
Ouais.
C'est pas... Voilà.
En fait, t'as plus de pitié pour lui, parce que tu t'imagines petit pied en train de mourir.
Mais il l'aide un peu à partir, et c'est la séquence émotion, parce qu'il aide
par
amour.
Et c'est là où se rend compte Claire que, en gros, ce n'est pas que des chiffres, et c'est aussi des êtres vivants, quoi.
Mais il se rend compte surtout d'autre chose, c'est qu'à la base, l'Airex, elle tue pas pour bouffer, elle tue pour le fun. Ça la détend, ça la déstresse.
Ce qu'elle aime bien, il y a des gens comme ça.
Chasseuse, quoi.
Et donc, du coup, il retrouve un petit peu les traces des neveux, et c'est là où il y a Owen qui annonce à Claire que non, il va aller chercher ses neveux seuls, parce que c'est trop dangereux. Et elle, qui nous fait une scène incroyable, où elle déchire sa chemise blanche pour nous laisser apparaître un beau petit débardeur mauve.
Ouais, mauve.
Elle le prend autour de la taille comme ça, et elle est en mode, toujours en talon, c'est bon, je suis prête, quoi, je vais à la guerre.
Bah oui, parce que c'est pas qu'une meuf de bureau, c'est une meuf d'action.
Voilà.
Ouais, c'est une meuf tout terrain, tu vois. Exactement. Bien sûr, allez, casse-toi.
Tout terrain avec des talons.
Du film, quoi. Et donc, ils partent à la recherche des neveux.
C'est là où tu remarques que son brushing, il n'est pas non plus éternel, tu vois. Et qu'en gros, il commence à y avoir des petites différences.
À l'inverse de sa tête de pâté.
Et wavy, ouais.
Et donc là, on re-switch sur les deux frangins. Alors, les deux frangins, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, les deux frangins, donc, ils sont en train de crapahuter dans la jungle. Et ils tombent sur les ruines du premier parc. Donc, le fameux centre où il y a une scène avec un T-Rex qui mange deux raptors. Et donc, il déambule un peu dans le truc-là. Il se fabrique une torche avec un morceau de...
Enfin, ouais, un morceau de t-shirt.
Et il tombe sur un vieux garage avec les vieilles Jeeps de l'époque.
Ça tombe bien.
Bah, voilà. Et là, comme ils ont des petites compétences en mécanique, parce qu'ils ont réparé, je paraphrase, la Malibu de papy, et ben du coup, ils savent réparer toutes les voitures du monde.
Oui. Mais du coup, ils trouvent une autre batterie. Enfin, une Jeep, oui. Ils savent dire instantanément qu'il faut changer la batterie.
Ouais, l'avantage du BEP mécano,
c'est que quand ça démarre pas, c'est la batterie, gros. c'est pas le carbu, gros, c'est la batterie.
Okay. Et en parallèle à ça, par contre.
Et ben en parallèle à ça, il y a Hoskins, donc Vincent D'Onofrio, qui vient voir le patron pour lui mettre un petit coup de pression, lui disant « Écoutez, ce serait quand même bien qu'on utilise les raptors. » Pour débusquer la bête.
Et du coup, ça nous donne ça.
Monsieur Ingen. Hoskins.
Je sais qui vous êtes.
Alors, vous savez ce qui m'amène. Je bosse depuis 2 ans sur un possible usage des raptors.
Ok.
Ils peuvent traquer et tuer cette créature.
Mais votre programme visait à tester leur intelligence.
Oui, c'est vrai. Et on l'a fait. Et dans ce laps de temps, on a fait une découverte.
Il y a juste un gars qui leur a fait en sorte de tourner la droite à gauche et...
La solution à votre crise,
ils sont pas non plus juste devant vous.
Je vais me montrer très clair à ce sujet.
Aucun vélociraptor ne sera lâché sur cette île tant que je serai là.
Vous êtes parche. Vous en faites quoi de tout ce petit monde, 20 000 personnes? Vous en faites quoi? Ils sont tous pris au piège. Il y a une machine à tuer qui se balade.
Pourquoi je peux pas en lâcher 4 autres?
Et elle va tuer non-stop.
Non-stop.
D'accord. Non-stop.
Je vais étudier personnellement votre projet pour estimer sa viabilité. Conformément aux principes moraux de l'entreprise.
Conformément aux principes moraux de l'entreprise. Bon, hein, voilà.
Ouais, principes moraux.
Oui, d'exploiter des animaux pour l'argent, quoi.
Et ouais, ça dénonce dans le podcast, bien sûr. On retourne avec les frangins. Alors, les frangins, c'est bon, ils ont réussi à taper la Jeep. Donc là, on est nickel.
Avec des allumettes, quand même, qui étaient mouillées.
Et là, ils partent.
Non, parce que les petits, ils avaient rangé dans le cul.
Rappelle-toi,
c'est plutôt pas mal.
Rappelle-toi.
Donc, c'est pour ça que quand il a plongé, ça n'a pas pris l'eau. Et donc là, il démarre la Jeep, il s'arrache. Mais alors, c'est con parce qu'en même temps, t'as Claire et Owen qui arrivent, pile poil. Vu qu'ils entendent la Jeep, ils disent « Ah putain, mais à mon avis, ça doit être... »
Il devait pas très loin, quand même.
Owen, il doit être assez impressionné, quand même. Il doit se dire « Putain, la vache, visiblement, le plus vieux, il a quand même 15 piges. »
Ouais.
Ils s'en sortent bien.
Je dirais 17 quand même. Un petit,
Bah, franchement, mais avec un petit boulet, c'est bien.
Échapper à la vigilance de l'assistante.
Ça encore, c'était pas trop difficile.
Ouais, ça, c'était pas trop difficile.
Ils s'est conduire le permis, c'est à quel âge?
Ils sont échappés d'une attaque de
Direx. Ça, c'est un peu plus difficile.
Et en plus, ils ont retapé une bagnole pour.
Les gamins, tout pour plaire à Owen, hein, c'est clair. Et ben, figurez-vous que Owen et Claire, ils arrivent certes sur les lieux, mais ils arrivent pas tout seuls.
Bah non, parce qu'il y a Direx qui les suit un peu à la trace quand même. Vu que...
Ou bien l'Airex a été attiré par le bruit de la Jeep aussi.
On ne sait pas.
Peut-être l'odeur de l'essence qu'elle filtre.
Oui, peut-être. Ça, mais elle leur met un petit coup de pression et puis ils se planquent. Bah, et alors c'est marrant, ils font exactement la même chose que le gros du début là, celui qui bouffait l'agent de
le
sécurité, le donut, en se planquant devant le capot d'une voiture très visible, mais pourtant elle les calcule pas plus que ça.
Oui, mais j'avoue que
elle les sent, mais elle ose pas bouger la voiture.
Ouais,
alors qu'après elle pète le toit.
Oui, elle est maniérée. Ça fout le bordel. J'aime pas trop.
C'est une femme.
Mais ils arrivent à s'échapper.
C'est pour ça qu'elle va vite changer d'avis derrière. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que Owen et Claire s'échappent de l'IRX, et là, Claire, elle dégaine son téléphone, elle appelle le QG en disant « Hé les gars, vous vouliez savoir où était l'IRX vu qu'elle a plus de puce GPS? Eh ben, je vous le dis, on est à tel endroit. » Et là, on lui dit, mais t'inquiète, il y a déjà le Big Boss qui est dans l'hélico, parce que le mec, il veut montrer qu'il sait piloter un hélico. L'hélico, il est équipé d'armes lourdes, on va commencer à bien la bouillave.
Ouais.
Et il s'avère qu'en effet, l'hélico, alors, il arrive quasi instantané, hein, donc ça, c'est ça qui est bien. Il avait pratiquement pas besoin, du coup, des conseils de Claire, parce qu'un truc qui couche les arbres au fur et à mesure que ça passe, normalement...
Oui, c'est ça, je vois, quoi.
Tu le repères, quoi.
En théorie, tu montes un peu, et puis tu le repères assez vite.
Et là, ils vont direct sur un espèce de dôme énorme.
Bah en fait, ça tire sur l'IRX.
Oui, ça tire sur l'IRX. Ouais.
Et là, à ce moment-là, je sais que dans le film, tu te dis « Oh, normalement, là, la bête, elle est dans la merde. » Parce qu'on est sur un hélico, elle ne sait pas sauter, elle ne sait pas voler. Ça commence à péter à coups de grosse mitrailleuse. Normalement, ça devrait être réglé.
Ils arrêtent pas de la rater en fait.
Oui, ça c'est vrai que ça aide pas non plus.
Après, pour sa défense, l'hélico est piloté par un mec qui sait pas piloter non plus. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais.
Puis c'est tiré par des mecs qui louchent aussi. Donc, c'est vrai que ça aide pas non plus quoi. Et donc là, du coup, l'IREX va venir se vautrer littéralement sur un dôme, mais pas n'importe quel dôme. C'est quoi comme dôme?
C'est une volière, donc il y a plein de ptérodactyles, du coup, des espèces d'oiseaux géants avec des becs de 3 mètres de long.
Ça fonctionne bien ça.
Des espèces de goélands un peu à l'ancienne quoi, clairement.
Ouais, goélands énervés.
Goéland bien énervé.
Et du coup, il y a l'hélico qui se crache.
Ouais, en fait, là, il y a l'IREX qui entre dans la volière, qui panique un peu tous les oiseaux parce qu'ils se disent « Oh putain, on va se rebouffer ». Et entre-temps, je sais pas trop ce qui se passe, mais en gros, t'as l'hélico qui se crache dans la verrière.
Ouais,
dans
la volière. Il s'est fait attaquer par les premiers ptérodactyles qui sont sortis.
Le premier ptérodactyle, ils se sont dit « Tiens, l'espèce d'oiseau-là, hélice, je l'aime pas trop, c'est une menace, je vais le péter. »
Et il crache l'hélico, clairement.
Oui. Il y a une brèche dans la voyère.
Et causant la mort de ce fameux patron.
Le big boss, ça y est, il est dead. Donc là, autant vous dire que c'est la merde, parce que tous les ptérodactyles commencent à s'envoler. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal en termes de rebondissement au niveau du film, parce que tu dis, tiens, ça ajoute un nouveau danger. Pour le coup, tu t'y pensais pas forcément.
T'y attendais pas trop.
Parce que là, le seul truc que tu dis à ce moment-là dans le film, tu dis, putain, l'IREX, il va foncer vers la foule. Mais tu dis, le gros danger en lui-même, il n'y a que lui. Et là, tu dis, ah bah, il y a un autre danger aussi qui va arriver, et ce danger-là vient des airs.
Oui, puis il y a un danger qui passe les murs sans trop de problèmes aussi.
Ah oui,
Bah, comme ils ont fait évacuer le parc, ils ont rassemblé tout le monde au même endroit, donc à côté de la grande pyramide centrale, là. Et là, ils commencent à diffuser un petit message d'alerte en disant, alors les gars, On a eu un petit problème. Là, il y a vraiment une brèche dans le confinement, mais
pas de panique.
Voilà, ouais, panique, pas de panique. Paniquez pas, mais commencez à courir quand même.
Voilà.
Petite sirène pour bien faire flipper tout le monde.
Deux minutes après, oui, c'est vrai que t'as la sirène et en plus la voix au microphone, elle dit, rangez-vous dans du dur. Clairement, allez vous cacher dans des bâtiments.
Mettez-vous
tu vois,
à couvert, quoi. Logique.
Mettez-vous à couvert ou suicidez-vous. Mais faites quelque chose. Non, mais j'avoue,
tout le monde court dans les allées.
Et
normal.
Là, c'est
t'es dans
c'est
le
la
parc.
Panique, ouais.
T'es dans le parc là avec des dinosaures et là t'entends la sirène qui fait. Mmh. Tu dis waouh, c'est un délire. Gros défaut du film, en effet. Là, tout le monde voit que l'attaque vient des airs. Tout le monde voit les ptérodactyles et en fait, les ptérodactyles sont en train de becquer tout le monde au sol, quoi. Tu vois.
Ouais, exactement. C'est la
tout le monde
panique,
court, mais personne va se réfugier à l'intérieur d'un.
S'il y a un mec qui va se réfugier à l'intérieur d'un bar avec ses deux cocktails qu'il a réussi à prendre.
Ah, mais je te jure, c'est un truc
ouais,
qui me dépasse.
C'est,
quoi.
Vrai
c'est
que...
les cocktails d'abord.
Parce que l'attaque des ptérodactyles dans le film. Hein, elle doit durer peut-être 5-6 minutes,
ouais, à peu près.
Ce qui est quand même assez long. Hein.
Oui, oui.
Et à chaque fois, tu vois que tout le monde court dans les allées, mais que personne ne se plante.
Les gens suivent le mouvement, en fait, je pense.
Ah non, mais c'est débile. Alors là, le pompon du pompon, le hasard faisant bien les choses, les gamins arrivent en même temps
dans le parc.
Dans le parc. Oui. Là où tout le monde court, il y a l'assistante de Claire
qui
retrouve
Claire,
les gamins
le coup,
en même temps. Et là, elle commence à les voir, et là, elle va se faire becter par un ptérodactyle. Oh. Qui va lui faire misère.
Le film la traite sale.
Elle se fait
balader
quand même. Ouais. Il la respecte pas.
Elle se fait emporter donc par un ptérodactyle qui commence à jouer avec en la lâchant à moitié. Elle est récupérée par un autre.
Il
décide de la lâcher dans le bassin du mésosaure qu'on a vu au départ.
Elle se fait rattraper.
L'ascenseur émotif.
Et elle se fait reprendre dans l'eau par un autre qui essaye de la prémâcher. Et puis là, le truc arrive par en dessous et éclate tout le monde. Donc piaf, assistant, téléphone, sac à main.
Tout le monde s'est fait victimer.
Et pendant cette scène qui doit durer quand même, je sais pas, une minute trente, quoi, on voit que les deux gamins restent stoïques en train de regarder ça, mais dans la...
Est-ce que c'est pas la meilleure attraction aussi,
sur le pont, ah ouais, c'est clair. Sur le pont, t'as envie de dire, mais planquez-vous, putain, c'est franchement aucun sens.
C'est clair.
Parce que comme ça, ils peuvent être repérés par les deux autres qui sont en train d'arriver.
Oui, parce que Owen et Claire arrivent aussi au même moment, le hasard faisant
alors,
bien les choses. Hein.
Il les repère pas à ce moment-là.
Oui, il les repère après, mais...
Il les repère après. Donc t'as Owen et Claire qui arrivent dans le...
Dans la foule.
Enfin, dans la guerre mondiale, quoi, en gros. Et là, t'as Owen qui se fait un peu chafouiner par un terroriste.
Attends, juste avant, parce qu'il est là, en fait, avec son arme.
Oui, son arme, ouais,
il
est dans le
non, mais il protège Claire, en plus.
Il en descend quelques-uns, oui, c'est vrai.
Il tire sur les
terres. Elle se met en hauteur pour appeler ses neveux, voilà. Et ils sont cinq derrière à la protéger.
Mais
oui,
ça, c'est pareil, je comprends.
Serais restée plus discrète, quand même.
Mais je comprends qu'elle appelle ses neveux, mais en fait, elle se met vraiment en hauteur, où t'as un ptérodactyle, tu dis, bah écoute, là, il y a Naki qui est en train de se lever, et je la prends, quoi.
Surtout qu'elle ressemble à une allumette, quand même.
Ah bah, c'est clair.
C'est pas le plus discret.
Oui, mais il la protège.
Une grosse allumette,
par contre.
Et donc là, Owen, il la défend comme il peut. Il tire sur tous les ptérodactyles. Il est en train de les éclater. Mais
à un moment, il se fait piquer son arme quand même par un ptérodactyle.
Ouais.
Et là, bah, il a plus rien pour dégommer les volants, quoi. Donc il se fait un peu chafouiner. Ouais. Et au moment où vraiment c'était critique, t'as Claire qui lui donne un gros coup de crosse de gun et lui plombe la gueule au ptérodactyle.
Ouais. Ça gérait pas qu'elle plombe.
C'est clair. Et elle le plombe en fait.
Ah, et depuis qu'elle a fait un nœud avec son chemisier,
c'est plus la même femme.
Hein.
C'est une autre femme. Ouais.
Et là, Owen, quand il voit ça, il se redresse. Il va directement vers Claire. Il la galoche sous les yeux des frangins. Et là, les frangins disent oh, putain, c'est qui lui? Et là, elle dit oh, rien, c'est juste un collègue.
Ouais.
Grosse chaudasse.
Mais la scène, elle est parfaite. Il fallait un bisou dans ce film. Et il est bien fait parce qu'il est pas trop. Il est pas tout moche, il est fait au bon moment. Il est pas trop long et on n'en parle pas après.
L'Airex embrasse plusieurs personnes dans le film. Bon, après, elle en mange la moitié aussi, mais il y a des bisous.
Je le trouve parfait. Il est pas trop long. Il en fallait un. Il fallait un bisou dans ce film.
Bah, on va dire,
on regarde un film où il en fallait un.
On va dire que c'était le moment de le mettre, quoi.
Et c'était bien le moment. Et il s'en parle pas après. Il est pas trop long. Il est très bien.
Ouais, c'est juste un collègue, oui.
Moi, j'aime bien mes collègues aussi. Hein.
Ah ouais, bah j'espère que tu
les as. Oui, vas-y, ouais.
Là, on fait un parallèle de nouveau au QG. Parce qu'au QG, Hoskin, il est venu pour réquisitionner le tout, en fait.
Ouais. Bah, alors, en fait, le problème, c'est que le propriétaire du parc lui a dit...
Est mort.
Oui, vous n'utilisez pas les raptors tant que je serai dans le parc. Bon, ça tombe bien, deux semaines plus tard, il est mort.
Il est mort, ouais.
Donc, il se dit, bah voilà. là je peux y aller. Ouais. Donc là, il a ramené toute sa petite équipe de mercenaires, je sais pas quoi.
Qui connaissent d'ailleurs exactement les lieux, hein, parce qu'ils savent exactement où se placer. Ouais, j'ai l'impression que les mecs, ils connaissent le matos. Quoi.
Ils se sont préparés toute leur vie pour ça. Et donc là, il prend le contrôle du truc, et puis il a la meilleure idée du monde, c'est-à-dire, il y a un énorme carnivore qui bouffe tout le monde.
Ouais.
Donc pour le chasser, on va lâcher 4 autres carnivores qui bouffent tout le monde.
C'est normal.
Comme ça, on aura 5 carnivores qui bouffent
chez
tout le monde.
Chez toi, il y a un incendie, tu dis, attends, bouge pas, il y a un incendie dans le salon. Ouais, je vais en faire démarrer 4 autres dans les chambres.
pour l'encercler.
A priori, on est bon. Et là, t'as Claire qui appelle le QG en disant, ouais, putain, pourquoi elle appelle Claire d'ailleurs?
Parce que je sais pas.
Elle appelle le petit geek, du début.
Avec le t-shirt.
C'est lui qui l'appelle pour lui dire que justement, c'est l'armée qui a repris le contrôle de tout.
Oui, c'est lui.
Et donc là, elle comprend pas et elle répète ce qu'il lui dit. Et donc, du coup, Owen entend que c'est Hawkins qui prend le contrôle. Il sort cette fameuse phrase, l'enfant de pute. Trop stylé.
Et là, il dit, tu sais quoi, vas-y, je vais débarquer là-bas et je peux te dire que ça va chier des bulles. Et là, il débarque. La nuit vient de tomber, hein, c'est normal, parce que pourquoi pas.
Oui.
T'as Hawkins qui dit, ah, mon ami, alors Owen, ça va. Et là, Owen, il lui met une patate de forain dans la tête. En mode, non, mais moi, je suis pas d'accord.
Il a un menton quand même, hein, parce que l'autre, il a des sacrés bras. Hein.
Ouais.
Parce que non seulement Chris Pratt, il a des bons bras, en plus, il lui lâche une droite avec de l'élan. Donc, normalement, celle-ci, c'est KO direct. Hein, elle te touche, elle te couche.
J'ai l'air de faire pivoter le corps. En plus.
Il a quand même une sacrée mâchoire. Hein. Je pense qu'il y a de quoi.
Il y a du gras quand même.
Hein. Ouais.
Et là, en fait, malheureusement pour Owen, il se retrouve devant le fait accompli parce que Hawkins, il lui pète un plomb en disant, mais mec, je t'explique, là, c'est tellement le sbeul dehors qu'il n'y a pas 36 000 solutions, mon pote. C'est où on lâche les raptors ou tout est fini. Donc, pas vraiment le choix.
Non, mais en fait, ça va se faire avec ou sans vous.
Choisis
ça
quoi.
Se fait autant que je sois là.
Autant que j'essaie de les sauver.
Là, ça fait chier Owen, mais en même temps, il va devoir définir un plan et ça nous donne ça.
On sait qu'elle est là, dans le secteur 5.
Ok.
C'est ce qu'on appelle jouer à cache-cache. Ils suivent l'odeur. On l'a fait des milliers de fois avec ces mêmes animaux.
Super.
Quand ils l'auront localisée, ils vont la localiser.
Gros cochon.
Vous attendez le signal. Les vélociraptors chassent en meute. Ils aiment traquer leur proie et la cerner. C'est là qu'il faudra la battre, à bout portant, à mon commandement. Et là, il faudra envoyer le paquet. On aura droit qu'à une chance seulement. Et ne touchez pas mes raptors.
Ah, c'est Raptor, il veut pas qu'on y touche.
Ah bah oui.
Moi j'aurais aimé être là. Hein.
Pour
pour faire partie du truc quoi.
T'aurais aimé être un Raptor.
Ouais.
Wow. J'aurais aimé être son Raptor.
Waouh.
Ok, toi tu kiffes trop. Tu kiffes trop la débloue, toi.
Et donc là il s'avère que le but est simple, hein, comme il expliquait. Ils vont faire flairer le bout de gibier aux 4 Raptors.
Oui.
Bout de gibier donc qui appartient à l'Irex. Pour que les 4 Raptors puissent venir les sentir, le but étant de buter après l'Irex.
Au moins de le trouver déjà.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que la partie assassinat de l'animal sauvage, c'est plus les humains qui s'en chargent à l'arme à feu.
Et là, on va avoir une scène, mais alors que je trouve
scène
pas
de...
crédible pour deux ronds, quoi.
Une scène juste pour voir Chris Pratt, en fait, qui est à moto au milieu de tous les Raptors.
On dirait qu'il est sur une autoroute, j'avoue,
en
pleine jungle.
Ouais, déjà, il est en pleine jungle. T'as l'impression qu'il est sur une route bitumée, le mec. il trace.
À côté des Raptors.
Parce qu'il fait partie de la meute, tu vois.
Bien sûr.
Oui,
c'est
ça
l'alpha,
fait un peu
bien.
Ça, ouais, c'est l'alpha. En parallèle de ça, t'as Claire qui regarde parce qu'ils ont équipé en fait les Raptors
de caméra.
Et du coup, Claire peut suivre à peu près tout leur déplacement.
Et elle décide de se planquer dans un camtar avec les gamins.
Oui, voilà, ouais. Elle trouve que le camion est bien sécurisé quand même. Hein. Il y a des portes en métal qui doivent faire 2 mm d'épaisseur. Clairement, pour un Raptor, tu vois, ça doit pas être facile à dégommer.
Oui, mais elle est avec eux.
Oui, quitte à me planquer dans un truc, je serais retourné au PC sécurité, tu vois.
Ouais, bah,
plutôt que dans un camion à côté des...
Oui, parce que quoi qu'il arrive, la caméra, tu l'as. Donc, enfin, je veux dire, t'as ton iPad pour suivre ce qui se passe en vidéo, quoi. Et donc là, en fait, Chris Pratt, il suit les Raptors. Arrive un moment, les Raptors se stoppent. C'est bon, là, ils ont flairé la piste de l'Irex. Et l'Irex commence à sortir. Et là, tu te rends compte que les 4 Raptors sont face à l'Irex. Tu dis, oh, ouais, c'est bon, en fait, le plan est nickel. Tout le monde est en train de viser l'Irex. Et là, Omar Sy, parce qu'il est de nouveau là, il va repérer quelque chose, et pas des moindres, il va repérer quoi, Charlie ?
Eh ben, les Vélociraptors commencent à communiquer avec l'IRX.
Chose qui n'était pas prévue.
Oui, alors c'était pas du tout prévu dans le plan. C'était plutôt, vous le bouffez, et vous commencez pas à tailler le bout de gras.
Ouais, c'est ça.
Et ils se rendent compte qu'il y en a un qui le flaire, qui dit, attends, t'es de la famille ou pas ? Et puis l'autre qui commence à répondre, les gars, vous faites quoi là ? Et les humains derrière commencent à percuter en disant « Oh putain !»
Ils sont en train de parler.
Oui, alors je crois qu'ils ont mis du raptor aussi dans l'animal, qui est mi-T-Rex, mi-sèche, mi-grenouille, mi-darmanin, mi-tout ce que tu veux.
Mi-molette.
Et là, ça pose trois problèmes principaux.
Lesquels?
C'est-à-dire que, bah, d'une, ils sont de la même famille, donc la famille avant les amis.
Bien sûr.
De deux, ils sont venus avec le dîner.
Oui.
Alors certains sur moto, d'autres sur quad, mais ils sont là avec les fringues et tout. Et que de trois, ils sont dans les hautes herbes.
Ouais.
Et quand on est dans les hautes herbes,
n'allez pas dans les hautes herbes.
Voilà, avec des raptors.
Bah résultat, ça commence à canarder l'Irex. L'Irex qui commence à essayer de fuir. Et là, il y a un mec qui tente un move quand même dans les soldats. Il prend un lance-roquette et il essaye de péter l'Irex à coup de lance-roquette. Il vise pas trop bien.
Il la touche, un peu, il la tue pas.
Ouais, ça se voit qu'il est un peu stressé, le soldat quand même. Mais
Du coup, voyant la roquette, les raptors, ils se disent, bah, on va venir vous péter, vous, les humains, ouais, en fait. Et là, la différence, c'est que l'Irex, tu l'entends quand même se déplacer. Hein. C'est assez lourd, c'est assez visuellement, tu le rates pas. Le raptor dans les hautes herbes, c'est des lames de rasoir. Il y a un petit truc qui est touchant, c'est que arrive un moment, comment il s'appelle, Owen, il se retrouve nez à nez avec un raptor qui n'est pas Blue. Et en fait, le raptor, bah, il veut pas le buter parce qu'il se dit, putain, merde, on a quand même passé du temps ensemble.
Et non, mais c'est trop mignon parce que du coup, il le reconnaît et ils ont l'air de s'entendre bien et finalement, il se fait dégommer aussi par un lance-roquette.
Il va pas être récompensé de ça.
Trop dommage.
Parce qu'il va se faire éclater sa mère.
Là, tu vois que la loyauté est vraiment pas facile. Ouais.
Il se fait éclater.
C'est pas récompensé, quoi.
Et puis, t'as le petit moment avec Homer Sy quand même. Petite scène pour lui. Se cache dans un tronc parce que...
scène qui le mettra en valeur.
Bien entendu. Et qui se fait attaquer par Blue parce qu'il vient de se rendre compte qu'il y a tout le monde qui est parti avec justement les quads, les motos, etc. Donc, il se retrouve seul un petit peu dans la jungle. Et il veut pas tirer sur Blue parce que ben quand même il la connaît depuis qu'il est toute petite, alors elle s'en fout.
Ah oui, Blue s'en bat littéralement les couilles. Hein. Ce qu'il a juste empêché de tuer Omar, c'est le tronc d'arbre. Donc
oui. Pas, hein. Elle avait un préféré comme entre les deux.
Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs c'est Owen qui sauve un peu Omar Sy.
Ce
qu'il monte sur la moto, il siffle comme on aime, comme il siffle.
Comme t'aimerais te faire siffler, quoi. Ah, d'accord.
Moi aussi, je suis un gibier.
Et donc là, ce qui fait en sorte que, comment elle s'appelle, Claire, elle est en train de voir ça à travers les caméras. Donc là, les gamins, ils veulent toujours regarder. Genre, alors, comment ça se passe, tante, ton mec, il est en train de les éclater. Non, arrêtez de regarder la télé, là, parce que ça devient hardcore. Et là, il y a un mec qui tape au carreau du camtar avec une grosse main de sang. Il dit, vite, fuyez, c'est la fin des temps.
Elle est géniale, cette scène, quand même.
Bon, bah là, tu comprends que le moral que t'avais il y a 10 minutes, il vient de partir dans les chaussettes.
Ouais. C'est aussi une scène vachement cliché, quand même.
Que c'était peut-être pas une bonne idée de rester finalement à proximité du.
Par exemple,
qu'elle aurait pu aussi se déplacer avant.
Donc là, ils partent et.
Ils arrivent.
Ah non.
Le remplacement.
T'as l'impression que c'est des gros zombies qui arrivent. En fait, c'est des raptors.
Bah, ceci dit.
C'est pas moins dangereux.
Ouais, c'est pas moins dangereux.
C'est même peut-être pire parce que les raptors sont beaucoup plus vifs.
C'est clair.
Donc d'un côté, t'as Claire qui file à toute berzingue dans le camtar avec les deux gamins et qui est poursuivie par deux raptors. Et t'as Owen qui, lui, normalement, est poursuivi par Blue.
Oui.
Alors, comment on fait dans un camtar pour essayer de dégager deux raptors?
Bah écoute, déjà, il y en a un qu'on... Comment on lui donne un petit coup d'épaule et puis il termine dans un arbre.
Oui, ce qui a tendance à le sonner.
Voilà. Le deuxième se fait prendre un petit coup de taser par les deux gamins qui sont derrière, hein, donc qui sont aussi sous la menace directe des raptors. Puis bah voilà, au final ils arrivent à s'en sortir et puis Blue, elle lâche un peu Owen qui arrive sur les entrées.
D'ailleurs, cette scène, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a aussi un clin d'œil au premier Jurassic Park. C'est-à-dire qu'il y a aussi le plan du rétroviseur dans lequel tu vois un raptor s'approcher.
J'ai pas fait gaffe.
Rapport au T-Rex, tu sais, dans le.
Dans Jurassic Park. Hein.
Et Blue, d'ailleurs, en fait, finalement, elle arrête de les suivre parce qu'elle entend la T-Rex, là, parler raptor. Et donc, du coup, elle décide de dévier.
Tu parlerais pas raptor, toi? Ah, c'est bien ce qui me semblait. Ouais.
Elle décide de dévier avec sa pote Delta.
Ouais, Delta
Elle décide de dévier et de prendre un autre chemin pour un raccourci, d'ailleurs, pour les rejoindre. D'où le fait que Owen n'est plus suivi et qu'il les retrouve plus tard.
D'ailleurs, mais... Charlie Blue Delta, ça fait CBD. Hein. J'aurais pas dit... Je pense qu'il y a un lien.
Et là, Owen et Claire, avec les gamins, débarquent dans le laboratoire. Alors, je sais pas pourquoi ils vont dans le labo.
Ben, en fait, ils se réfugient dans l'espèce de pyramide centrale, là.
Ouais.
Alors, oui, alors pourquoi est-ce qu'ils vont dans le labo? J'en ai aucune idée. Mais ils réalisent qu'en fait, tout a été déménagé.
Ouais. Les embryons, les tests.
Le généticien qui s'est tiré aussi. Et là, il y a le fameux Hoskins qui se pointe et qui commence à leur faire un petit discours sur « Non, mais les gars, le futur, c'est maintenant. La guerre, c'est plus la même chose qu'avant et tout. » Et il est interrompu par Blue. Je ne sais pas si c'est Blue ou si c'est un autre.
C'est Blue.
Okay. C'est Blue.
Voilà, qui aussi se pointe. C'est une grosse réunion, en fait, dans ce putain de labo. Et qui le bouffe.
Tu lui fermes bien ta gueule, toi. Voilà. Bam. Elle
qui
le bec te
voilà, il était temps qu'il meure, que le film le condamne, et donc il est mangé par un.
Il essaye quand même de la maîtriser comme Owen. Hein, clairement, genre gentil. Voilà.
En fait, il lui donne juste le bras, et puis elle se dit, bon, vas-y, je vais te bouffer, en fait, hein, ça va être plus simple. Et là, c'est galère parce que toutes les meufs, à savoir les raptors, vont commencer à se tourner autour d'Owen, Claire et des gamins. Owen, il va retenter le petit domptage, quoi.
Ouais, parce que ils ont un lien quand même. Ouais. Voilà, il les a élevés depuis qu'il était tout petit, et donc il tente le coup du je tends le bras. L'autre l'attaque pas, il lui enlève son petit harnais sur la tête. Oui. Puis voilà, on sent que le lien est encore présent. Et
à ce moment-là, il y a l'IRS.
Et à ce moment-là, il y a l'IRS, le patron qui arrive.
Ouais. Et là, c'est la grosse confrontation.
Mais c'est quand même une vraie séquence émotion parce que elle est pas si longue que ça, mais elle est lente cette scène. Et il se regarde vraiment. Et quand il lui enlève, justement.
Tu sens une tension sexuelle entre les deux.
De ouf. Non, mais il enlève vraiment sa caméra et elle le regarde. Et là, il y a une confiance qui se réétablit. Oui. En mode, ok, tu me l'enlèves, je sais que tu veux que du bien pour moi. Et là, elle comprend aussi que là,
Et du coup, dans la scène d'après,
c'est en enlevant que tu pourras me la mettre.
T'as Blue au milieu, t'as Owen d'un côté et t'as l'IREX de l'autre. De l'autre, quoi, alors, et t'as Blue qui commence à se dire.
Et elle lui dit, ok, je vais t'aider.
Ouais.
Elle communique, elle lui dit ça.
Non, parce que
elle lui dit, je vais t'aider. Et là, elle se retourne, elle attaque la IREX.
En fait, ouais, clairement, t'as Blue qui dit, bon, bah voilà, je suis peut-être pas non plus aux ordres de la IREX. La IREX, pardon, quand elle voit ça, elle se dit, bon, alors toi, déjà, je vais te puncher direct ta grand-mère. Boum, elle l'explose contre le mur. Et là, t'as les autres raptors qui disent, bah, attends voir, du coup, bah, nous, on va te sauter dessus,
Culé, QLF, c'est mort ou...
Ouais, c'est clair. Les deux raptors commencent à sauter sur l'IREX pour
grâce
se battre.
Grâce
à Blue, au sacrifice de Blue.
Oui, mais Blue, elle s'est fait dégager quand même entre-temps.
Bah, c'est suite à ça, justement, qu'il saute dessus.
Non, mais c'est parce qu'il y a Owen qui siffle.
Blue se fait dégager par la...
Oui,
par
et
la
Owen,
Rex.
Il siffle et les deux, les accords.
Je pense que sur les sifflements d'Owen, elle est spéciale. C'est très bien à quel moment il siffle.
Et là, il siffle et, elle, et les deux autres courent.
T'as pas remarqué qu'à chaque fois que vous regardiez le film, au moment où il siffle, elle se lève.
Si la IREX ne dégage pas Blue, l'autre, il aura beau siffler.
Je suis d'accord.
Donc, pendant qu'ils sont en train de se fight, si tu veux, les gamins et Claire ainsi qu'Owen, ils essayent un petit peu d'esquiver les coups de queue un peu à droite à gauche. Et là, illumination de la part du gamin tête à claque.
Ah, il compte les
ouais,
dents.
Alors là, il commence à compter les dents de l'IREX.
Pour vous dire à quel point il a que ça à
foutre. Pour le fouet. Bah, en même temps, il s'est caché dans une cahute en bois alors qu'il y a des bâtiments en béton juste à côté. Bon, c'est pas non plus une flèche sur ça, tu vois. Ouais.
Il compte les dents du.
Il est pas ingénieur, quoi.
Des raptors.
En gros, il compte les dents du raptor et il se dit, tiens, il n'y a pas assez de dents pour combattre.
Il y a plus de dents pour la team IREX,
tu vois.
Ça aurait été marrant qu'il commence à compter les siennes. Ah.
Attends, mais moi j'ai 7 ans. Ah ouais.
On fait ça. Nous, on y va tous.
Et là, il commence à dire ça à voix haute, ce qui va faire un déclic
à Claire.
Un déclic à Claire, ouais.
Alors,
Claire.
Qu'est-ce qui se passe avec Claire?
Claire capte qu'il manque des dents, donc elle se dit ok, T-Rex. Et là, par chance, l'enclos du T-Rex est juste à côté.
Bah, l'avantage, c'est qu'elle connaît le parc, vu qu'elle est quand même un peu.
Oui.
Enfin, elle a pas compris très longtemps.
Je te dirais même qu'elle le connaît par cœur. Allez. Et là, je me mets à la place de ceux qui étaient fans de Jurassic Park 1.
Par clair.
Et qui ont kiffé Jurassic World au cinéma. Parce que au moment où la porte s'ouvre de l'enclos et tu vois le T-Rex de Jurassic Park 1 qui arrive, la T-Rex, pardon, là tu dis wow. Et là, elle craque un fumigène rouge. Et là, elle lance le fumigène, elle le lance où, Charlie?
Elle le lance sur l'IREX. Parce qu'on remarque quand même, plutôt dans le film, quand ils vont voir le T-Rex en train de se faire nourrir, qu'à côté d'une chèvre, il y a un fumigène aussi. Et donc, à mon avis, ils ont associé, tu vois, dans l'esprit du T-Rex, le côté bouffe et fumigène. Et donc, au moment où elle lance le fumigène sur l'IREX, le T-Rex doit se dire « Ouh, bah, ça veut dire, c'est l'heure de la soupe !» Sauf que d'habitude, c'est des chèvres, et là, c'est quand même un truc qui va essayer de la bouffer. Elle, je pense qu'elle s'y attendait moins, mais...
Ah d'accord, il n'y a pas de plateau repas, là. Okay. Bon, ça va être sport.
Donc, voilà, je suis obligé de l'ouverture facile, tout ça, c'est mort.
Okay. On est sur l'ouverture compliquée, pas de problème. Allez, j'enchaîne. Et là, c'est battle.
Bah, t'as la T-Rex avec l'IREX qui se battent, mais je trouve que c'est un
elle
beau combat.
Elle se tire les cheveux, elle se tire les cheveux.
C'est un beau combat. Franchement, ça se tient. Après, on sait pas trop qui a le dessus, mais t'as Blue qui arrive en mode ralenti pour aider quand même.
Oh, ouais. Bah, à un moment où quand même le T-Rex était... C'était compliqué pour elle.
Et par contre, par hasard, elles arrivent à pousser la IREX près de l'eau où il y a le mésosaure. Et le mésosaure sort de l'eau et arrive à choper la IREX.
Oui, j'avoue que cette scène m'a beaucoup fait penser à du catch quand même.
C'est clair.
C'est le hasard. C'est bien tourné.
C'est Triple H qui team up avec Rey Mysterio pour descendre Randy Orton. Franchement, c'est ça.
Et là, t'as Undertaker qui se pointe, sorti des nerfs. Black. Ah non, c'est
par-dessus la troisième corde.
C'est clair. Watch out. C'est un peu ça, quoi. Et là, il s'avère que donc l'Irex se fait amener au fond de l'océan, se fait bouffer. Il y a le T-Rex qui part de son côté. Il y a Blue qui part de son côté.
Elle communique avant entre elles, quand même.
Qui ça?
La T-Rex.
La T-Rex et Blue.
Non, mais alors, c'est ouf. Comment ça se fait que Blue et la T-Rex arrivent plus ou moins à se parler, mais que l'Irex et le T-Rex n'arrivent pas à se...
Parce que c'est un film mal écrit.
Quoi?
Un film mal écrit.
Mal écrit. Ah. Ça veut dire que c'est pas bien écrit.
Ça veut dire que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que la T-Rex, une fois qu'elle a fini de combattre le truc qu'elle est censée manger,
elle n'a pas mangé. Elle est fatiguée. Elle vient de faire un combat de boxe. Elle a juste envie d'aller
se tirer alors qu'il y a de la bouffe juste à côté.
C'est clair.
De l'humain qu'elle est déjà habituée à manger, parce qu'elle l'a déjà fait dans les épisodes.
Elle a même pas bouffé la T-Rex au final.
Non, mais elle a rien mangé.
Elle est fatiguée.
C'est un animal.
C'est pareil. Il faut qu'elle mange.
En tout cas, toujours est-il que chacun repart de son côté. Scène suivante, on arrive sur une ellipse où en fait tous les survivants sont dans un énorme hangar. Et puis on redécouvre que les parents des gamins arrivent pour les récupérer. Alors ils paraissent
qui ont l'air réconciliés.
Ouais, rabibochés, ouais, c'est clair.
Ils s'aiment de plus en plus, on va dire.
C'est ça. Et donc ils récupèrent les gamins. Et puis là, t'as Owen qui regarde Claire en disant ah bah nous, qu'est-ce qu'on fait? Bah nous, on reste ensemble pour la question de survie. T'en dis,
on va repeupler l'île. Ouais.
C'est un peu le moment émotion, mais qui est très très plat quand même. La fin du film est très plat.
Ouais, la fin du film est pas ouf.
C'est vrai.
Et c'est ainsi que se termine ce merveilleux film pour la deuxième fois. Alors, on va passer aux catégories.
Alors, première catégorie, la meilleure scène.
C'est le moment où le T-Rex arrive à la fin, avec le fumigène.
Le moment où elle le pilote comme un A330 sur un tarmac.
Pour moi, c'est vraiment une scène qui a bien marché.
C'est par là.
C'est par là, à gauche.
Non, pas les hangars de gauche, non.
Ok. Sophie.
Pour moi, c'est vraiment quand Owen et Blue se retrouvent à la fin, qui lui enlève son micro là et qu'il y a une confiance qui renaît et tu vois l'intensité qu'ils ont entre eux et donc là elle fait
ça
pour lui.
Ça a dû rêver que Chris Pratt lui remette sa mèche derrière
Il redevient l'alpha, on le voit bien. Donc ça j'adore.
Moi j'aime bien la scène où Chris Pratt entre dans l'enclos des raptors tout seul et sauve le petit jeune d'une mort certaine.
Ah, j'avoue que la scène avec le T-Rex c'est bien. Sinon l'attaque des ptérodactyles m'a un peu fait rire quand même. Des gens qui courent comme des poulets sans tête.
Qui se font becter là.
Et qui se font becter le côté, tu sais.
Et qui sauvent leur
alarme, bombardement et ouais. Tout. Ça m'a fait marrer. Qu'est-ce qui a le mieux vieilli dans ce film de 2015?
Les effets spéciaux.
Ouais, moi j'ai trouvé que les effets spéciaux aussi étaient.
Pas du tout.
Pour un film qui a 9 ans, moi je trouve franchement que c'est propre. Hein.
Dans 5 ans, vous chialez.
Est-ce que vous avez une morale à ce film?
Moi je dirais ne confiez jamais vos enfants à votre sœur qui travaille trop, tu vois.
Par exemple.
Les animaux élevés en captivité. Ils sont pas très équilibrés.
Merci Greenpeace.
Apprenez de vos erreurs. Vérifiez les paramètres audio pour nous éviter de faire un deuxième podcast sur ce même film qui nous fait perdre toute spontanéité. Voilà, surtout ça. Ah non, mais je sais même pas si on va aller jusqu'au nombre de chocolats. Je pense que ce sera un bonus pour que les gens écoutent ce qui a été fait.
On avait donc les questions sans réponse. La première question étant, est-ce que les parents divorcent ou pas?
Moi, je pense pas.
À la fin.
Est-ce que le cochon se fait bouffer ou pas?
Moi, je pense que oui. Alors, non, il divorce pas. Oui, le cochon se fait bouffer.
Combien vous payez pour une journée dans le parc? Le parc sans les dinosaures qui s'échappent. Hein. Juste le parc, oui. Vraiment.
Moi, s'il n'y a pas Chris Pratt, je ne paye pas.
Moi, pour voir des
parce
dinos...
Parce qu'on nous a souvent taxé de chouin avec Badis concernant Angelina Jolie. Mais alors, toi, t'es un stade, mais... Au-dessus, quoi.
On en a pas parlé, mais comme l'Irex est à moitié Vélociraptor, elle peut parler avec les Vélociraptors. Comme elle est à moitié T-Rex, pourquoi elle parle pas avec le T-Rex?
Moi j'avoue que ça, c'est la seule question sans réponse que j'ai. Franchement, je sais pas. Et j'avoue que ça me titille.
J'imagine pour des raisons de scénario.
Peut-être. Je veux pas pointer du doigt le scénario qui est extrêmement bien écrit.
Tu sais qu'en disant ça, tu viens de lui niquer le film quand même.
Ouais, j'avoue. Ça me perturbe.
Ah, juste à ce moment-là, il t'a niqué le film? D'accord. Tout ce qu'on a dit avant, ça t'a pas...
Non.
Ok, d'accord. Okay.
C'est peut-être que le T-Rex ne vit pas en meute et du coup n'arrive pas trop à communiquer. Le recast, on fait ou pas?
Le recast, ce sera pour le bonus également. Ceux qui écouteront le bonus, on aura le recast et on aura ce qu'on pense du film. Ça marche?
Ok, vas-y.
Est-ce que tout est bon pour vous?
C'est bon.
Eh bien, écoute, dans la douleur, hein, on a mis 4 heures pour faire ça, 2 fois 2 heures. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, c'était le cas la première fois. C'était un peu plus dur la seconde fois. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut.
Salut.
C'est vraiment trop débile, votre truc.
Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe.
Et surtout, n'oubliez pas.
Au cas où, on se reverrait pas d'ici là. Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.
Thank you.
veux rentrer chez moi.
Le recasting.
Alors,
français. Recasting français. Bien sûr.
Je claquerai un Gilles Lelouch pour Chris Pratt.
Oh. J'avais hésité, hein. J'avais hésité.
Je claquerai André, je sais plus quoi là pour Claire là.
Ouais, bien sûr.
Ouais, voilà. Pour Omar Sy, du coup, il faut prendre un Américain. Je prendrai Kevin Hart. Allez hop, comme ça c'est fait. Et puis pour le méchant, oh, le méchant le Hoskin, tu mets Benoît Magimel.
Ah.
Ah, Benoît Magimel, c'est pas mal. Par contre, Gilles Lelouch, je ne peux pas du tout.
Ah mais. Moi,
il y en a un qui fait un.
Ah ouais, ouais, pareil.
Chris, moi, j'avais mis. Ah, je voulais mettre François Civil, mais je l'avais partout.
Eh ben, je l'ai mis. Du coup, bon, voilà.
Ah, moi, j'ai mis Albon Le Brun. Moi, j'ai mis un mec musclé.
Ah, tu vois, qui fait un tour.
J'ai mis Thomas Sisley.
Oh non.
Oh, mais t'es ouf, les gars. C'est bien lui qu'on voit bien sur une moto comme ça.
Ah non, Albon Le Brun, c'est pas bête.
Moi, Claire, j'ai mis Bérénice Bejo.
Moi j'ai mis Audrey Fleurot comme toi.
Après le truc, c'est qu'il faudrait que Audrey Fleurot fasse un beau couple avec François Civil.
Mais pas François Civil du tout.
Parce que tu trouves que Audrey Fleurot et Gilles Lelouch, ça prend plus de rêve.
Bah c'est plus cohérent. Ouais,
ouais là, Gilles Lelouch, par contre, en Owen,
ça fait tout très
bien français. Ouais.
Non mais tu sais, c'est la touche française, quoi. Tu sais, mec un peu bovin, un peu pécor, quoi. Tu sais, un peu agriculteur.
Ah, parce que, Gilles Lelouch, j'imagine, avec de la paillasse, c'est.
Ah ouais. Mais tu sais, justement, j'ai
dit, au moment où il se cache en dessous du camion, ça passe tout juste.
Mais ça passe.
Heureusement, c'est un 4x4, quoi. Moi,
je le vois pas du tout, par exemple, ouais, être trop... une droite. Il est trop gentil.
Ouais, non, franchement, je vais rester sur Gilles Lelouch.
Ok. Moi, pour le général, donc le méchant. J'ai mis Philippe Cura. Et Philippe Cura, c'est le chauffeur dans Caméra Café.
Ah si oui, je vois. Ah, bon. Okay. Ah ouais, d'accord, je vois.
Je sais pas pourquoi il me faisait vachement penser à lui.
Même qui a joué dans Le Baltringue.
Le Baltringue.
Ouais, avec ouais.
Et, le patron, enfin le.
Ah, alors,
lui là. Moi j'ai mis Nasser Al Ariel.
Ah oui, d'accord. Ah non, pas non.
Le président du PSG.
On est bon pour le recasting, c'est bon?
Bah écoute, oui.
Franchement, on a un recasting qui tient la route.
Ouais, ça,
après, ce qui serait stylé, c'est que ça se passe en France, plutôt que de mettre des dinosaures, tu mets des coqs.
Des chèvres.
Des coqs. Ceci dit, ils auraient des plumes comme les vrais dinosaures.
Des coqs de 8 mètres de haut.
Alors, combien de chocolat on lui met? On va commencer par. Allez, vas-y, Sophie.
Alors, moi je trouve que c'est un très bon film. Je l'ai adoré, je reconnais, c'est mon plaisir coupable. Hein. Vraiment, je peux le regarder des milliards de fois, je l'aime toujours autant. Je mettrais au moins 3,5. Okay. Je trouve que c'est un film de fiction. Le casting est bon, il est bien réalisé, les effets spéciaux sont bien, il n'est pas trop long, alors qu'il dure quand même plus de 2 heures. Mais tu t'ennuies pas. Et c'est le film où dimanche soir, tu es vraiment content de le regarder. Tu t'endors pas devant parce qu'il est animé. Et j'irai beau le revoir, franchement, je l'adore.
J'y mets 3 parce que, en fait, j'aime bien ce blockbuster, ouais. Clairement. C'est, comme dit Sophie, c'est vraiment un film à mater le dimanche soir.
Incroyable.
Non, mais tu sais, les dimanches soirs, c'est souvent un gros film où t'as pas besoin de réfléchir, en fait. Quoi. Ouais, voilà, exactement. Et puis, non, j'aime bien les rappels, surtout à Jurassic Park, qui m'ont fait kiffer, ouais, clairement. Et bon, après, c'est pas non plus. C'est pas un film d'auteur, hein. Clairement. Tu vas sans réfléchir, c'est bien. Donc, allez, 3.
1,5.
Ah, t'es dur!
Bah, en fait, le problème, c'est qu'il y a des trucs dans le scénario auxquels j'accroche pas du tout.
Ouais.
Vraiment, déjà, les personnages, les décisions des personnages. Suite des cascades de décisions qui font que. Qu'en fait, ils se tirent une balle dans le pied. Et je trouve vraiment que l'ARX est beaucoup trop intelligent. Je veux dire, c'est juste pas possible. Je ne peux pas concevoir en tant que personne qu'un animal sauvage puisse comprendre le concept du GPS, ou alors on tombe carrément dans la planète des singes, en fait. J'ai pas réussi à m'y faire. Parce que, intelligent comme ça, ils devraient tous les niquer, mais en fait, tuer un par un, quoi. Et voilà, après, ouais, je trouve les deux gamins insupportables.
Visuellement, ça m'a pas mis sur le cul. Il y a des trucs où je me suis dit, putain la vache, dans le Jurassic Park, c'était quand même mieux fait, mais parce que forcément, pas d'effets spéciaux, sur certaines scènes, hein, j'entends. Donc, ouais, non, Chris Pratt me fait marrer, mais c'est tout. Hein.
Ça sauve pas le film.
Quoi. Ah non, pas du tout. Hein. Donc, non, 2, ce sera très bien. T'imagines, gros, tout le monde nul. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Pourquoi ?
C'est enregistré ?
Si, c'est enregistré. Qu'est-ce qu'il y a ?